Europe 1.
Nous sommes le mercredi 27 septembre, il est 7h.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, du cannabis, de la cocaïne à portée de clic, quand les dealers vous livrent directement sur votre palier. Enquête sur le phénomène Uber Shit dès le début de cette édition. Ici, c'est pas le Far West. Vous entendrez aussi la colère du préfet des Alpes-Maritimes après un énième déplacement. Quartier des Moulins à Nice, la cité livrait la guerre des gangs à coups de batte de baseball et de kalachnikov. L'industrie de défense à marche forcée vers l'économie de guerre. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est dit prêt hier à réquisitionner personnel, stock, voire ligne de production. Explication à suivre. Et puis les recherches sont suspendues aux États-Unis moins de 24 heures après l'effondrement du pont de Baltimore. Les images ont fait le tour du monde. Les 6 personnes portées disparues sont présumées décédées. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est un des angles morts de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Vous en avez peut-être entendu parler. Le phénomène Uber Shit, la livraison de drogue à domicile. Un clic sur Internet, une connexion sur les messageries en ligne et la marchandise arrive sur votre palier. À Paris, Marseille, Lille ou encore Lyon, les dealers se sont adaptés pour conserver un coup d'avance sur la police. Jean-Baptiste Marty.
Il suffit de passer commande pour être livré en quelques minutes un jeu d'enfant. Les dealers se font ensuite passer pour des livreurs de nourriture et se rendent au domicile des clients. Alors pour les démasquer, les policiers doivent changer leur méthode d'investigation. Redabellage du syndicat SGP Police.
C'est le décryptage des différents réseaux sociaux qui va nous permettre de remonter. Voilà, des fois il suffit d'une petite vidéo aussi, par exemple sur Snap, ou qui peut trahir les individus. Vous constatez que voilà, tel endroit, on sait que maintenant. Cette marque-là de vente de stup, vous savez que c'est tel lieu. Et du coup, c'est un peu plus facile pour nous pour essayer de remonter la filière.
Alors, pour infiltrer les groupes de vente sur Internet, 200 cyberpatrouilles ont été créées. Des policiers sous pseudonyme qui se font passer pour des clients. Une méthode à l'américaine désormais autorisée en France. Une pratique déjà existante pour traquer les pédophiles sur Internet.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.
On vous en parlait dès hier à Nice. Le préfet a tapé du poing sur la table après une énième rixe, quartier des Moulins.
Affrontement entre bandes rivales, règlement de compte sur fond de trafic de drogue présumé, tout s'entremêle, mais à l'arrivée, le résultat est le même. Des scènes de guérilla urbaine avec tirs de Kalachnikov, le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou, est donc revenu dans le quartier pour rappeler tout le monde à l'ordre.
Depuis 6 mois, ça doit être la 10e fois que je viens au Moulin. Ça commence à suffire. Depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai compté 400 opérations de police, 938 interpellations. C'est une sorte de méli-mélo sur fond de trafic de stupéfiants ou de différends entre bandes rivales. En l'espèce, les jeunes des Moulins et les mineurs non accompagnés. Ici, c'est pas le Far West. C'est l'ordre de la République et c'est la loi de la République qui doit prévaloir. Depuis un an, on est à plus de 30 kilos de drogue saisie ici. On va continuer à leur faire mal. Et on va continuer notre guerre d'usure. Et ils se lasseront avant nous.
Le préfet des Alpes-Maritimes, Hugues Moutou.
3 personnes en garde à vue depuis hier dans l'enquête sur la disparition de la petite Lina dans le Bas-Rhin.
Un couple de septuagénaires et un homme de 40 ans. L'adolescente de 15 ans a disparu en septembre dernier alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. À Paris, le proviseur du lycée Maurice Ravel jette l'éponge et quitte ses fonctions. Il était régulièrement menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile. Départ pour raison de sécurité, dit-il, et comme il était à quelques mois de la retraite, le rectorat a accepté qu'il puisse la prendre par anticipation.
Il est 7h04 sur Europe 1. La France doit passer en économie de guerre pour aider l'Ukraine. Voilà ce que répète inlassablement Emmanuel Macron depuis au moins un an. Message reçu par son ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui envisage pour la première fois des réquisitions.
Et possibilités offertes par la loi de programmation militaire récemment adoptée au Parlement. Ces réquisitions de personnel, de stock concernent l'industrie de défense. L'idée, c'est bien sûr d'accélérer la production d'armes et de munitions. Explication Arthur Delaborde.
Produire davantage et plus rapidement pour répondre aux enjeux de souveraineté et assurer un soutien dans la durée à l'Ukraine, c'est ce que demande Sébastien Lecornu à l'industrie de la défense. Le ministre des Armées se dit prêt à utiliser l'outil le plus dur de son arsenal juridique, les réquisitions permises par la loi de programmation militaire adoptée à l'automne.
Pour la première fois, je n'exclus pas d'utiliser ce que la loi permet au ministre et au délégué général pour l'armement de faire. Si le compte n'y était pas en matière de cadence de production et de délai de production, c'est-à-dire de faire des réquisitions, le le cas échéant.
Ces réquisitions peuvent aussi bien concerner le personnel que le stock et l'outil de production. Sébastien Lecornu envisage également d'activer le droit de priorisation, par exemple en contraignant les sous-traitants des producteurs de missiles à ne plus travailler que pour le militaire afin d'accélérer la fabrication des fusées anti-aériennes destinées à l'Ukraine.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. La France se doit passer, Gabriel Attal qui réunit l'ensemble du gouvernement à Matignon, séminaire aux allures de Conseil des ministres, objectif faire des économies après le grand dérapage des comptes publics, 154 milliards de déficit supplémentaire en 2023. Dans le collimateur de l'exécutif, les dépenses sociales et l'assurance chômage. Et parmi les solutions envisagées, la réduction de la durée d'indemnisation et l'accélération de la dégressivité des allocations.
À l'étranger maintenant, il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants après l'effondrement du pont de Baltimore aux États-Unis.
Recherche suspendue depuis hier. Les 6 personnes portées disparues sont présumées mortes. Une panne du système de propulsion serait à l'origine de la collision entre le porte-container et l'une des piles de l'ouvrage. Trafic routier et maritime interrompu. Et ce n'est pas sans conséquence pour l'économie de la région. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, plus de 30 000 véhicules empruntent chaque jour le pont Francis Scott Key. Un trafic qu'il va falloir détourner, provoquant des retards importants. Du côté du port, plus aucun navire ne peut sortir ou entrer pour l'instant. Il va donc falloir, là aussi, dérouter les marchandises. Un cauchemar logistique. Baltimore est l'un des ports les plus importants du pays. Il génère 140 000 emplois et personne ne sait encore quand il pourra rouvrir. La reconstruction du pont pourrait quant à elle prendre des années et la facture pourrait avoisiner le demi-milliard de dollars. Mais Joe Biden a promis de s'en occuper.
J'ai demandé à mon équipe de remuer ciel et terre pour ouvrir le port et reconstruire le pont le plus vite possible. Mon intention, c'est que le gouvernement fédéral paye l'intégralité des coûts.
Le gouvernement pourrait se retourner contre les propriétaires du porte-container, mais avec un navire sous pavillon de Singapour, géré par une compagnie mais affrété par une autre, trouver la bonne juridiction et le responsable pourrait prendre du temps, avec à la clé des répercussions sur toute l'économie américaine.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Le football, ils ont gagné, c'est tout ce que l'on retiendra de la rencontre des Bleus de Didier Deschamps hier soir face au Chili.
Ah oui, victoire 3-2, ça reste un match amical, mais les Français n'ont pas franchement rassuré Cyril de la Morinerie.
Oui, comme face à l'Allemagne, le match a très mal commencé. Le Chili a ouvert le score dès la 6e minute, mais cette fois les Bleus se sont retroussés les manches. Fofana a égalisé grâce à une passe de Kylian Mbappé, la 27e offrande du capitaine français avec le maillot bleu. Randal Kolo Muani a marqué, puis a offert un caviar à l'inoxydable Olivier Giroud. Le vétéran français inscrit son 57e but avec l'équipe de France. Les Bleus ont su réagir après la défaite de samedi dernier, mais c'était loin d'être parfait, concède le sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1.
Même s'il y a eu réaction aujourd'hui, il n'y avait pas la même opposition. Je trouve que sur le plan athlétique, on ne peut pas dire qu'on débordait d'énergie, quoi. C'est bien d'avoir gagné, mais bon, on a fait des choses aussi un peu de manière laborieuse.
Avec 4 buts encaissés en 2 matchs, c'était en effet laborieux, mais l'équipe de France aura encore 2 rencontres de préparation en juin pour reprendre confiance avant le début de l'Euro.
Cyril de la Morinerie, puis tiens, l'Ukraine, la Pologne et la Géorgie décrochent les 3 derniers tickets pour l'Euro de football. La Géorgie qui va se qualifier pour la première fois de son histoire, entraînée par un certain
Willy Sagnol.
Bonne réponse, Anissa.
Voilà, et oui, c'était un Nantais, Willy Sagnol, si j'ai bien.
Bordelais aussi,
oui, bon, bref, je vous fais confiance. Merci à tous les deux. Merci Christophe Lamarre.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito Écho.
Alors, après les mauvais chiffres du déficit, on annonce des économies dans les dépenses, mais va se poser aussi la question des recettes. Est-ce qu'on va pouvoir esquiver des hausses d'impôts? On va en parler avec Nicolas Bouzou. Ce sera juste après l'invité actualité d'Europe 1 Matin. On sera en ligne avec le maire de Firminy, près de Saint-Étienne. Firminy, où vendredi, des dealers ont caillassé les enfants d'une école primaire. A tout de suite.
7h-9h,
Europe 1 Matin.
Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de la commune de Firminy, près de Saint-Étienne.
Bonjour Julien Luyard.
Bonjour Monsieur Pavlenko.
Bienvenue sur Europe 1. Merci d'être avec nous ce matin pour témoigner d'une situation que l'on observe dans un certain nombre de communes en France, désormais un point de deal. Juste à côté d'une école, Gabriel Attal a cité la semaine dernière le chiffre de 200 établissements scolaires concernés dans le pays. C'est le cas de l'école de la Tardive sur votre commune, Monsieur le maire. La situation perdure depuis des années, mais vendredi, semble-t-il, c'est allé trop loin pour les parents d'élèves. Des dealers ont lancé des pierres dans la corne de l'école. Un enfant a été légèrement blessé. Les enfants ont même retrouvé de la drogue dans la cour. Alors l'inspection d'académie a déposé plainte. Avant de vous donner la parole, Julien Luya, on va écouter une mère d'élève. Elle s'appelle Sarah. Ses deux enfants sont scolarisés à l'école de la Tardive. Voici son témoignage recueilli par Caroline Baudry pour Europe 1.
Les jeunes cachent ou jettent des sachets de des substances qu'ils consomment dans l'école pour éviter, je pense, les patrouilles policières. Et en fait, je me suis rendu compte que ma fille savait et qu'ils alertaient les maîtresses à chaque fois qu'il y avait quelque chose de suspect. La police est intervenue sur place pour récupérer les sachets. En guise de représailles, ces jeunes ont lancé des cailloux sur les enfants qui étaient dans la cour de récréation. Ils les ont même menacés à l'aide d'un taser. Je crains pour leur sécurité, même à l'intérieur de l'enceinte de l'école. Au quotidien, c'est devoir passer devant un groupe qui fait n'importe quoi. Ils arrivent à enjamber la clôture qui fait 1m20 que n'importe qui pourra enjamber. Ils avaient mis le feu à un hôtel à insectes dans l'école dont les enfants étaient plutôt fiers puisque c'était leur réalisation. Et vraiment, ce que je redoute aujourd'hui, c'est que des parents peut-être envisagent de faire justice eux-mêmes. J'attends de la mairie et du maire une prise de position ferme et des actions concrètes.
Voilà, de la drogue qu'on jette dans la cour de l'école, des enfants qu'on vise au taser, des dealers qui enjambent les clôtures de l'école. L'un d'eux est même venu s'y réfugier l'an dernier pour fuir la police. Comment réagit le maire que vous êtes, Julien Luya?
Bon, déjà, il réagit, je dirais, localement sur une, j'irais sur un cheminement d'apaisement. Parce que c'est vrai que les faits, de la façon dont on les présente, sont toujours quand même un peu distordus. Donc effectivement, on a eu un petit souci vendredi d'une toute petite quantité de drogue, sans doute perdue ou égarée par quelqu'un, qui a été retrouvée dans une zone qui jouxtait entre l'école et le parc qui est juste à côté. C'est une école qui est vraiment voisine d'un grand parc.
Vous dites
public.
Que ça n'a pas été retrouvé dans l'enceinte de l'école, vous?
Si, dans l'enceinte de l'école, mais sans doute jeté par quelqu'un qui a dû fuir une intervention de police ou un de ses dealers qui voulait sans doute se débarrasser d'une... Mais c'était vraiment une quantité infime de drogue et des jets de cailloux qui ont été provoqués par l'intervention de la police et par une forme de représailles de ces jeunes-là. Donc c'est pour ça que ce genre d'affaires, je préfère les traiter dans l'apaisement, dans le calme, parce que ça évite aussi ces formes de représailles derrière.
Oui.
Donc c'est un point de deal qui est bien connu de la commune.
Mais vous dites en substance, monsieur le maire, que en fait, les dealers ont bien jeté des cailloux, mais ils ne visaient pas les enfants, que c'est une petite quantité de drogue, non, mais malgré tout...
Quand on dit les dealers, vous voyez, c'est des grands mots. Les dealers, c'est un
jeune... Des gens qui vendent de la drogue, ce sont des dealers, monsieur. Quel que soit l'âge qu'ils ont, quel que soit le rôle qu'ils jouent, ce sont des dealers, ils font partie d'un trafic de drogue.
Tout à fait, ils jouent un rôle dans un trafic qui est bien plus large que ça, mais à la base, ça reste un enfant qui est à peine plus grand que les enfants qui sont à l'école. Donc voilà, je crois qu'il faut faire preuve un peu de retenue.
Mais vous entendez quand même la colère des parents. Vous entendez quand même, ce sont vos administrés, ce sont vos électeurs aussi.
J'habite à 200 mètres de cette école, donc c'est une école que je connais très bien, dans un quartier qui est plutôt apaisé. Effectivement, on a le problème de ce point de deal, mais bon, c'est 2-3 jeunes qui sont toujours à proximité de cette école, qui stagnent ici, donc sur lesquels on travaille beaucoup, avec notre service médiation, avec notre police municipale. Et puis bien sûr, il y a l'action de la police nationale qui fait des descentes très régulièrement sur ce point de deal et sur les autres de la commune, parce que c'est vrai que là, il y a eu une stigmatisation que je trouve pas très intéressante.
Stigmatisation.
Dans la résolution de ce type de problème. Oui, parce que des points de deal dans la commune, j'en ai 4-5. Et vu que j'ai 7 groupes scolaires dans la commune, je pense que la plupart se situent non loin d'une école. Alors, c'est la réalité qu'on connaît dans cette époque.
Mais je vais donner, sereinement. Je vais donner un petit détail, Julien Luya. Donc à propos d'une saisie justement qui a eu lieu le mois dernier sur l'un des points de deal dans votre commune, les policiers ont mis la main sur des petits sachets étiquetés Hachibo. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des paquets de bonbons, sauf que ce ne sont pas des bonbons. Pilon aussi. Imitant une marque de sachet de thé. Bon, pour des petits dealers mineurs de rien du tout.
C'est du marketing.
C'est quand même.
Point de deal où on vous offre un jeu à gratter quand vous venez acheter votre drogue, où on vous offre un paquet de feuilles à rouler quand vous venez acheter votre drogue. C'est des techniques marketing. Il y a une forme de normalisation de ce marché et on a une forme de jeunesse. Qui est sur une forme quand même un peu d'hérédité, c'est-à-dire que souvent les parents de ces jeunes gens, Il y a des gens qui posaient un peu problème et qui ont souvent pas donné de valeur, quoi que ce soit, qui ont rien transmis à leurs enfants. Et eux, en fait, ils arrivent à 12, 13, 14 ans et ils trouvent tout à fait normal d'aller faire le guet sur un point de deal ou être un petit peu plus étoffé dans le trafic pour arrondir le fin de mois, pour faire un peu d'argent de poche, pour vivre. Et eux, pour eux, c'est complètement normalisé. Certains sont scolarisés d'ailleurs.
Hein. Mais on
certains
vous sent...
sont scolarisés.
On vous
dès
sent...
qu'ils quittent le collège, ils vont sur leur point de deal. Ils font ça comme un travail,
mais
quelque part.
Julien, lui, a...
Et c'est nous, on est là en face à lutter, et je dirais surtout sur un point de vue, parce que le maire...
Mais on vous sent un peu résigné, pardonnez-moi, on vous sent un petit peu résigné, l'association de parents d'élèves, vous reproche
résigné,
une certaine inertie, oui. C'est du pragmatisme.
Oui, mais l'association des parents d'élèves, vous savez, quand on arrive à l'approche des élections, les associations de parents d'élèves qui sont avec une personne qui je lui en veux un peu à cette personne parce que elle est en train de mettre à plat tout le travail qu'on a fait juste pour des raisons sans doute assez personnelles de pouvoir. Et voilà, vous savez, localement, il y a des enjeux qui se jouent sur le point de vue politique malheureusement, on a une personne dans cette association de parents d'élèves. Qui a décidé de mettre un barouf autour d'un épiphénomène.
Enfin, ça parle, parle aux gens, quand même, l'histoire. Hein.
Et dans tous les points de vue de la ville. Hein.
Julien Luya, je vais aussi raconter, pardonnez-moi Julien Luya, je vais aussi raconter que vous-même, vous êtes fait agresser, hein, pas si longtemps que ça, mi-janvier, on en avait parlé d'ailleurs.
Sur des interventions, d'ailleurs la première fois c'était pour une intervention sur un point de deal aussi, la deuxième fois c'était sur la lutte contre les rodéos urbains, qui était un problème qui est lié au point de deal, hein, qui est un problème d'une délinquance indirecte. Et voilà, ces jeunes gens, ils restent toute la journée à faire les imbéciles sur leur point de deal. Donc forcément, au bout d'un moment, ils font des bêtises et il faut intervenir. Et on le fait sur toute la commune. Et je pense que tous les maires de France essayent de lutter contre ce phénomène-là. Et nous, on a des interventions de police nationale quasi toutes les semaines sur tous les points de deal. Mais malheureusement, je vous dis, vu l'ampleur du trafic, vu ce que ça leur rapporte... Et vu aussi cette espèce de dérive qu'on a pu noter. Moi, je note que c'est des jeunes gens qui ne réfléchissent pas comme nous, qui ne vivent pas dans la même société, qui sont complètement à la marge, qui vivent que selon leurs propres règles. Alors en plus on a une utilisation des réseaux sociaux qui est vraiment néfaste à ce niveau-là, parce que on pense que c'est facile de gagner de l'argent, la valeur travail ne se véhicule pas.
Réseaux
sociaux, drogue, trafic, et quand
merci.
On voit que à la fin du mois on a pas mal de billets dans la poche, et on se dit c'est ça la vraie vie.
Merci
et
Julien
donc,
Luya.
Le problème c'est que
merci
faut,
à vous.
C'est l'éducation qu'il faut.
Merci à Julien Luya. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Firminy, près de Saint-Étienne. Merci d'avoir témoigné ce matin au micro d'Europe 1.
C'était un plaisir.
On vous souhaite une bonne journée.
Il est 7h20, l'édito Écho. 7h, 9h, Europe 1 matin.
Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
bonjour
tous.
Nicolas.
Alors Nicolas, face à la situation catastrophique de nos finances publiques, est-ce qu'on va échapper à des hausses d'impôts? Qu'en pensez-vous?
Ah, je pense que c'est possible, je pense que c'est même souhaitable de ne pas augmenter les impôts. Alors, déjà, rappelons, s'il en est besoin, que la France reste la championne du monde des prélèvements obligatoires, si on fait la somme des prélèvements sociaux et des impôts. Et le problème, c'est qu'à ce niveau de pression fiscale, augmenter les impôts n'est pas une bonne idée. François Hollande, souvenez-vous, en avait fait l'expérience en 2012. Pour réduire rapidement les déficits, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, à l'époque, avait fortement augmenté l'impôt sur le revenu. Ils avaient revu le quotient familial à la baisse. Et in fine, ça avait pesé sur l'activité et ça avait finalement généré des recettes fiscales décevantes. Les déficits avaient été un peu réduits, moins que prévu, mais le chômage avait augmenté. Cette politique ne s'est donc pas avérée être la bonne.
Alors Bruno Le Maire, Nicolas, a proposé lundi dans Sud-Ouest de basculer 5 points de cotisation sociale sur les salaires vers la TVA, qui donc augmenterait. Ça représente quand même 60 milliards. Donc c'est le retour de la TVA sociale en quelque sorte. C'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous?
Oui, alors réactiver la TVA sociale, c'est-à-dire baisser en contrepartie de la hausse de la TVA les cotisations salariales, qui sont par définition payées par les salariés, c'est une politique qui est astucieuse. L'idée, c'est que le salaire net des personnes concernées augmente et que l'un dans l'autre, leur pouvoir d'achat ne baisse pas. Le problème, c'est que c'est une politique qui ne bénéficie qu'aux salariés, mais qui pénalise les autres catégories, notamment les retraités. Et puis, ça reste quand même un jeu de bonneteau. Ça ne s'attaque pas au fond du sujet, qui est la baisse de la dépense publique. Je vais vous dire, ce genre de manipulation fiscale, même si elles sont bien intentionnées, ça me semble dans la période actuelle très anxiogène.
Bon, mais vu l'état des finances publiques, Nicolas, le gouvernement va de toute façon faire quelque chose.
Ouais, mais enfin, on n'est pas obligé de faire quelque chose dans la précipitation. Le taux d'intérêt auquel l'État s'endette, il est stable, aux alentours de 2,8%. L'écart de taux avec l'Allemagne a même tendance à se réduire. Ça veut dire que les marchés gardent confiance dans la capacité de remboursement de la France. Alors, je vais vous dire, l'action résolue pour réduire les déficits publics, c'est une obligation. Ça n'est pas négociable. Mais nous avons le temps d'être méthodiques, intelligents, et je vais vous dire, nous avons même le temps de ne pas augmenter les impôts.
Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas.
Europe 1.
Un événement ce matin sur Europe 1, c'est dans Culture Média, de 9h30 à 11h avec Thomas Hill, qui reçoit Anissa Haddadi, l'humoriste préférée des Français.
Oui, après une tournée à guichet fermé, Florence Foresti a choisi Europe 1 pour vous présenter son dernier spectacle Boys, Boys, Boys. Alors vous êtes nombreux à l'avoir vu en salle, mais vous êtes nombreux à le regarder très bientôt sur Canal+. On va en parler, les rapports hommes-femmes, le sexe, les inégalités, les ados, version Foresti. C'est 1h30 de rire, ne manquez pas Florence Foresti dans Culture Média tout à l'heure à partir de 9h30 jusqu'à 11h sur Europe 1.
Allez, bon réveil, il est 7h23, le journal permanent sur Europe 1, Christophe Lamarre.
Les catastrophes climatiques qui se sont succédées en France l'an dernier ont coûté 6,5 milliards d'euros aux assureurs. Les compagnies se disent inquiètes face à un changement d'échelle et une accélération d'événements qualifiés de dévastateurs. Gabriel Attal réunit l'ensemble de son gouvernement à Matignon, séminaire consacré au travail alors que l'exécutif cherche des économies pour combler les déficits dans son viseur, les dépenses sociales et l'assurance chômage. Aux États-Unis, les recherches sont suspendues moins de 24 heures après l'effondrement du pont de Baltimore. Les 6 personnes portées disparues sont supposées mortes. Le football, les Bleus se rachètent une conduite même si tout n'a pas été parfait. Victoire 3-2 hier soir contre le Chili en match amical.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où...
Le 27 mars 1967, la France connaît une grande marée exceptionnelle, la plus forte du XXe siècle, comparable à celle que l'on a connue il y a quelques jours. Anissa nous l'avait commenté avec un coefficient, donc ce jour-là de 1967, de 118. Europe 1, évidemment, suit l'événement. C'est le grand spectacle de Pâques, lors d'Autriche, sur les littoraux cette année.
Ah oui, sur la côte atlantique, on vient de loin pour voir ce qui devait être la marée du siècle.
C'est très joli. C'est la première fois que je le vois, mais je suis bien contente de l'avoir vu.
Jamais on n'aurait pensé qu'il y avait tous ces rochers.
Certains ont aussi choisi d'assister à ce spectacle au Mont-Saint-Michel, où la population passe pendant quelques heures de 132 à 30 000 habitants. Et la ville de Deauville aussi, en Normandie, change complètement de visage.
J'avoue que c'est un spectacle tout à fait inhabituel à Deauville.
Ça, c'est sûr.
Et les planches sous l'eau à Deauville, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça.
On a fait un petit muret au plâtre, c'est tout ce que l'on pouvait faire.
Et avec cette grande marée, certains ont aussi l'espoir d'une pêche miraculeuse, comme à Biarritz.
Vas-y, pris des soleils, des petits cabillots.
Qu'est-ce que vous avez pêché?
Bah vous voyez, pas grand-chose, des oursins.
Monsieur le pasteur, je vous vois sauter de rocher en rocher, ça vous plaît?
Oh, je pensais bien, je retrouve toute ma jeunesse. Évidemment, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, mais je pense que je ne reverrai plus jamais.
Et les plus chanceux pêcheront des crabes, des palourdes, des coques. Mais le mauvais temps, et même la tempête pendant ces quelques jours, va entraîner la première grande marée noire de l'histoire. Un navire, le Torrey Canyon, s'est échoué sur les côtes anglaises, déversant 120 000 tonnes de pétrole qui arrive quelques jours plus tard sur les côtes bretonnes. Mais personne ne voit encore le drame écologique que ça représente.
Demain, on va dresser de petits bars à la surface de l'eau, paraît-il.
Oui, on va essayer. On va faire des essais, n'est-ce pas, pour voir ça, parce que c'est un problème tout à fait nouveau et auquel nous ne nous attendions pas, n'est-ce pas.
Autrement
enfin,
dit...
les spécialistes ne nous avaient pas annoncé ça.
Des barrages sont donc montés, de la paille est étalée sur les plages, des fosses creusées aussi. Et là, pour la première fois, eh bien, l'État et l'Europe prendront des mesures de lutte contre la pollution maritime.
Réalisation Sébastien Guidis. Merci Laure d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Ah bah tiens, vu qu'on parlait d'océan, de grandes marées, de grand air, eh bien sachez que cette semaine, Europe 1 vous offre un week-end pour deux dans l'une des quatre Thalasso Valdis Resorts Hôtel Thalasso et Spa. Pour vous ressourcer évidemment, pour vous reposer, retrouver votre vitalité, évacuer le stress. Le programme pour vous, de nuit, 8 soins bien-être face à l'océan. Au choix, vous pourrez aller soit à Roscoff ou à Douarnenez en Bretagne, soit à Pornichet, Baie de la Baule en Loire-Atlantique ou encore à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. C'est vous qui choisissez et vous avez toutes les infos sur thalasso.com.
La question la voici. Quel coefficient de marée atteint-on en mars 67 ? Réponse A, 118 ou bien 120 ?
Pour tenter votre chance, ce matin, vous envoyez Thalasso par SMS au 739 21. Deux fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour et le tirage au sort aura lieu vendredi. Bonne chance à tous. Je vous rappelle qu'à 8h10, Maud Bréjon sera l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
La députée Renaissance des Hauts-de-Seine, alors quelles économies après les mauvais chiffres du déficit? Est-ce que la Macronie va briser le tabou des hausses d'impôts? Rendez-vous dans trois quarts d'heure.
Europe 1 matin. 7h-9h. Dimitri Pavlenko.
Et à la une, la France gangrenée par le trafic de drogue, comme à Vénissieux près de Lyon, où un bailleur social est en train de dresser un barrage contre le trafic pour protéger ses locataires. Il va jusqu'à barricader l'une de ses résidences pour empêcher les dealers d'entrer. Reportage dans un instant. Des économies, encore des économies. Après la publication hier des mauvais chiffres de la dette et du déficit public, le gouvernement réunit ce matin autour de Gabriel Attal un séminaire sur le thème de la smicardisation. On va en parler. Pas sûr qu'il y ait de la place pour tout le monde. Aussi, nouveauté cette année, pour les élèves de seconde, ils doivent faire 2 semaines de stage en entreprise au mois de juin. Mais, contrairement aux promesses gouvernementales, les offres manquent pour répondre aux plus de 500 000 demandes. Le journal de 7h30 sur Europe 1. Nina Pavan, bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous et on vous emmène à Vénissieux près de Lyon ce matin sur Europe 1 où un bailleur social se bat tous les jours contre les dealers et il vient même de prendre une mesure radicale, installer des barrières à l'entrée de la résidence Ambroise Croizat. Objectif, gêner le trafic pour déloger les dealers qui squattent la cage d'escalier. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
La barrière en métal gris foncé s'étend sur plus de 200 mètres, séparant désormais ces vieux immeubles des années 60 du boulevard juste à côté. Maintenant donc, pour entrer et passer les portillons sécurisés, il faut un badge, une décision du bailleur social Sacoviv, qui était une nécessité face au trafic de drogue, explique sa directrice Roxane Michel.
L'objectif, c'est que nos locataires se sentent en sécurité et soient tranquilles, sans avoir une intrusion des dealers au niveau de leur espace d'habitation.
Parce que c'était le cas jusque-là ?
Ça pouvait être le cas au niveau des parties communes, où on avait effectivement des jeunes qui venaient à l'intérieur des halls.
Une mesure saluée par beaucoup d'habitants, comme Kenza.
Ça apporte de la tranquillité pour nous, les habitants du quartier. Il y avait des jeunes et puis c'était pas sécurisant pour nous, tous ces va-et-vient. Donc c'est très bien, c'est une bonne idée.
Francisco, en revanche, est beaucoup plus sceptique.
Maintenant, ils se sont rabattus sur le bâtiment d'à côté, qui n'est pas protégé, lui.
Ça a repoussé le point de deal.
Voilà, exactement. De toute façon, il y en a un en face aussi. Je ne sais pas si vous avez vu en face là-bas. Ils ont mis des barrières il y a 2 mois et ils ont tout cassé. Donc je ne pense pas que ça va régler le problème. Hein.
Et effectivement, ici aussi, la barrière a été dégradée. 5 jours seulement après son installation, les dealers ont arraché 3 poteaux pour pouvoir entrer comme avant. Sauf que cette fois, le bailleur l'a fait réparer dans la foulée et compte bien désormais faire respecter ce nouvel espace. Vénissieux, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Alors pour mieux lutter contre les narcotrafiquants, faut-il leur couper l'herbe sous le pied et légaliser le cannabis en France? Premier pays consommateur en Europe, la question continue de diviser. Pendant ce temps, l'Allemagne passe à l'acte. À partir de lundi prochain, l'achat et la consommation de cannabis ne seront plus un délit. Dernier de nos voisins frontaliers à sauter le pas. Mais William Molinier, cette légalisation outre-Rhin risque surtout d'être une aubaine pour les narcotrafiquants français.
La légalisation du cannabis n'a jamais fait disparaître les trafics. Les Pays-Bas ont mis 30 ans à le comprendre. Trop tard, le pays est aujourd'hui qualifié de narco-État. En légalisant le cannabis le 1er avril prochain, l'Allemagne risque de prendre le même virage, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le narcotrafic en France, notamment à cause de la possibilité outre-Rhin de se rassembler en association pour produire du cannabis. Le risque, explique une source policière, c'est une évolution vers une production de taille industrielle qui pourrait se déverser sur la France. Pour rassurer, Berlin promet d'encadrer et de contrôler drastiquement ce nouveau marché. Reste une autre conséquence, le taux de THC, la molécule de cette drogue étant fixée par la loi, les dealers français vont être tentés de vendre en Allemagne un cannabis beaucoup plus concentré, plus fort, voire coupé avec des produits chimiques. Car contrairement aux idées reçues, la légalisation du cannabis est davantage perçue par les trafiquants comme une aubaine plutôt qu'une contrainte qui les obligerait à rentrer dans le cadre de la loi.
William Molinier.
Trois personnes en garde à vue dans l'affaire Lina.
Ce sont les premières depuis la disparition de l'adolescente en septembre dernier. Un couple de septuagénaires et un homme d'une quarantaine d'années sont entendus pour des incohérences dans leur emploi du temps. Le jour de la disparition de Lina, vue vivante la dernière fois sur le chemin de la gare de Saint-Blaise-la-Roche en Alsace. À Romans-sur-Isère, dans la Drôme, la justice se prononce en faveur d'un procès 4 ans après l'attentat islamiste qui avait fait 2 morts et 5 blessés. Abdallah Osman Ahmed, réfugié soudanais, sera bien jugé pour assassinat et tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste.
Vous écoutez Europe 1 Matin, il est 7h35.
Exécutif endetté cherche milliards d'euros désespérément.
Avec un déficit en 2023 qui s'élève à 5,5% du PIB, bien au-dessus de ses prévisions, l'exécutif doit faire encore plus d'économies d'ici à 2025. Parmi les pistes possibles, la chasse aux arrêts maladie. La loi de finances sur la sécurité sociale pour cette année prévoit plus de contrôles, mais le gouvernement compte aller plus loin, Margot Fodéré.
Oui, Bercy veut s'attaquer aux 16 milliards d'euros que coûtent chaque année les arrêts de travail à la sécurité sociale. C'est un des sujets les plus importants, assure l'entourage du ministre de l'économie. 8,8 millions d'arrêts de travail ont été recensés en 2022, en hausse de 30% sur 10 ans. Et tous les profils sont désormais concernés, explique Laurent Capelletti, directeur à l'Institut de socio-économie Iséor.
Ça touche toujours certes le public, mais dans le privé, c'est en train de quasiment de rattraper. Les nouveaux recrutés n'hésitent pas aussi à être absents. Les cadres.
Il y a quelques jours, l'assurance maladie a publié ses suggestions dans le cadre des négociations en cours avec les médecins libéraux. Elle propose notamment de permettre aux médecins d'avoir accès à l'historique des arrêts de travail de son patient. Bercy voit dans les indemnités un levier d'économie, mais les résultats seront limités, prévient Nicolas Marques, le directeur général de l'Institut économique Molinari.
Le gouvernement, au mieux, il économisera 1 à 2 milliards, alors que le déficit actuel est de 154 milliards.
En tout cas, la lutte contre les arrêts de travail pourrait faire partie d'un plan d'économie plus large, incluant aussi les transports de malades.
Margot Fodéré, les économies dans les finances publiques, il en sera justement question ce matin à Matignon. L'exécutif se réunit autour de Gabriel Attal pour un séminaire gouvernemental. Le chef du gouvernement qui sera l'invité du JT de TF1 ce soir.
On évoquait à l'instant ces trois gardes à vue dans l'affaire de la disparition de la petite Lina au mois de septembre dernier. On vient de l'apprendre, les trois gardes à vue ont été levés. On en reparlera tout à l'heure dans le journal de 8h. Il leur reste 3 mois pour trouver un stage. Plus de 500 000 lycéens de seconde sont concernés par la dernière modification de l'agenda scolaire.
C'est la reconquête du mois de juin, comme l'avait surnommé Gabriel Attal lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Objectif, occuper les élèves de seconde jusqu'à la fin des cours prévus le 6 juillet. Il avait promis 200 000 offres de stages sur le site gouvernemental Un jeune, une solution. Mais la plateforme n'en compte pour l'instant qu'à peine quelques milliers. Louis Salé, c'est donc la panique dans les rangs des lycéens à quelques semaines de l'échéance.
Il ne lui reste plus que 3 mois pour trouver un stage. À Paris, Charlotte multiplie les demandes mais n'essuie que des refus.
J'ai du mal à trouver des stages parce que tous les endroits que j'ai contactés, ils prennent pas de stagiaires en fait. C'est dans l'éducation, dans les sciences et tout ça, et la plupart, ils ont beaucoup de demandes et pas assez de places.
Victor, lui aussi, est découragé.
J'ai envoyé plein de CV, de lettres de motivation, tout ça. Sur 15, je crois que j'ai eu genre 5 réponses. Des refus, mais au moins des réponses. J'ai dû finir avec l'aide des parents, quoi, avec les contacts à la mairie. C'est pas ce que j'aurais choisi, mais ça va, en vrai. Y a pire.
Rémi, qui justement veut éviter les pistons des parents, à consulter les offres sur la plateforme du gouvernement. C'était lundi, jour de son ouverture.
Je suis allé assez tôt dans la journée. Il n'y en avait pas beaucoup, beaucoup. Une quinzaine, mais juste après ça, il y en avait beaucoup plus.
Sur ce site, les propositions sont inégalement réparties. 100 à Paris contre 3 à Saint-Etienne, par exemple. On est très loin, en tout cas, des 200 000 offres promises par Gabriel Attal. Par ailleurs, pour ce stage, aucun oral ni rapport n'est demandé à l'élève. Certaines sociétés craignent donc de faire de la garderie.
Louis Salé, un mot de football. Les Bleus se sont imposés hier soir face au Chili en match amical de préparation pour l'Euro qui se tiendra au mois de juin. Les Bleus de Didier Deschamps, pas rassurés pour autant au vu de cette victoire qui fut laborieuse.
Merci beaucoup Nina Pavan. C'était votre journal. À suivre sur Europe 1, l'édito international. On va parler des suites de l'attentat de Moscou. Vladimir Poutine s'est donc dit résolu à admettre, à admettre la responsabilité d'islamistes radicaux. Voilà les mots qu'il a employés. Mais selon lui, le donneur d'ordre était quand même à Kiev, peut-être même à Washington. Vincent Hervouet raconte dans un instant sur Europe 1.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Merci d'avoir choisi Europe 1 pour débuter votre journée. Il est 7h42, Dimitri Pavlenko.
Dans 10 minutes, l'édito politique, on va parler du dérapage de la dette publique. Pourquoi le capitaine du navire n'a-t-il pas vu arriver l'iceberg du déficit? Quelles conséquences la va-t-il avoir politiquement, notamment? On verra ça avec Vincent Trémollet de Villers. Le Club Culture d'Europe 1 Matin. Nous sommes mercredi, jour des sorties ciné. Qu'allez voir en salle? On verra ça avec Laurie Choleva. Le livre du jour également. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour, un road trip vampirique, je ne vous dis que ça.
Oula.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette.
Autre histoire de vampire. Bonjour Dimitri.
Et oui, les suites de l'attentat de Moscou. Vincent, ce matin, le Kremlin a fini donc par reconnaître la revendication de l'État islamique, mais il continue de dénoncer les Ukrainiens.
Oui, alors le patron du KGB est un homme discret. Il donne moins d'interviews que le pape. Mais hier, Alexandre Bortnikov a accusé lui-même les services américains et britanniques d'avoir facilité la tâche aux terroristes et les services ukrainiens d'être directement impliqués. À l'Ouest, on hausse les épaules quand on entend cette rhétorique de combat avec les anglo-saxons qui soutiennent les nazis, qui manipulent les islamistes. Deux ans de guerre nous ont immunisés contre les outrances de la propagande. À l'Est, on réagit autrement. On est prêt à avaler cette énormité, on pèse le pour et le contre en tout cas. La première raison à cela, c'est que la CIA a forgé le SBU, le service de renseignement ukrainien. Elle n'ignore rien de ces manigances. À l'occasion, elle les dénonce. Le New York Times, le mois dernier, a raconté comment les Américains avaient installé, il y a 10 ans, une douzaine de bases à la frontière russe et pour permettre au SBU d'intervenir derrière les lignes ennemies. On peut déduire de cette intimité que jamais les Ukrainiens ne se seraient laissés aller à comploter un attentat de masse à Moscou sous le nez de la CIA, même s'ils en avaient envie. Sauf que les Russes ne raisonnent pas ainsi, car ils diabolisent les services américains.
Alors l'autre curiosité de cette affaire, c'est qu'il y a des djihadistes en Ukraine, Vincent.
Les Européens préfèrent ignorer cette réalité dérangeante. Au sein de la Légion internationale ukrainienne, il y a des anciens de l'État islamique en Syrie qui ont afflué en Ukraine pour continuer le combat. On compte 4 bataillons de djihadistes. Le plus connu est le bataillon d'Oudeyev, formé de vétérans de Tchétchénie qui veulent leur revanche sur les Russes et sur Kadyrov. Mais il y a aussi les fous de Dieu du bataillon Cheikh Mansour ou encore le bataillon Obon de Rustan Aziev, qui était un chef de djihad en Tchétchénie, qui a ensuite commandé une milice redoutée en Syrie et qui a rallié l'Ukraine avec armes et bagages il y a 2 ans.
Et puis il y a le recours au terrorisme.
Alors samedi, on a vu la colère de Volodymyr Zelensky accusant Poutine et les autres salopards de vouloir rejeter la faute sur l'Ukraine. Il avait raison, évidemment. Mais il a aussi juré que l'Ukraine n'avait jamais fait de terrorisme. Alors là, quel mensonge! On ne revient pas sur le sabotage de Nord Stream ou sur le camion piégé qui a sauté sur le pont de Kerch avec son chauffeur qui n'y était pour rien. C'était des cibles stratégiques. Mais les Ukrainiens ont aussi tenté de tuer Alexandre Douguine et c'est la fille de l'intellectuel qui est morte dans l'attentat. Et hier, le chef des services ukrainiens, Vassil Malyuk, s'est longuement vanté. Il a raconté l'exécution d'un politicien dans la banlieue de Moscou avec une balle de 9 mm dans la poitrine suivie d'un tir de contrôle dans la tête. Il a expliqué que la statuette remise à un blogueur dans un café de Saint-Pétersbourg était farcie de 400 grammes d'explosifs qui ont fonctionné sur lui comme un rasoir. Il a raconté que la voiture piégée de l'écrivain Zakhar Prilépine avait tué son assistant mais atteint la cible dans les jambes, le bassin et désolé qu'il s'était retrouvé sans organes génitaux. Un maître espion ne devrait pas dire cela. Pas avec cette gloriole. Pas au moment où l'ennemi l'accuse d'avoir trempé dans un attentat aveugle. C'est comme les vidéos des tortures infligées aux terroristes par les Tchétchènes, qui étaient si fiers de montrer au monde entier. On parle de guerre hybride en Ukraine. C'est surtout une sale guerre qui terrorise, qui torture et qui a cela en commun avec la guerre civile. Elle méprise toutes les règles.
Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Tiens, on a appris aussi hier que les 4 qui ont été arrêtés vont être envoyés à la prison du Dauphin Noir. Je ne sais pas si vous connaissez Vincent, qui est situé à Orenbourg.
Je vais essayer celle-là.
Ici, il paraît que c'est la pire prison de Russie.
Ouais. Oui, voilà. Il y a une forte concurrence pour être la pire prison.
Vous avez tout à fait raison. Allez, on en vient. On va se changer les idées avec Nicolas Carreau. Voilà. Le livre du jour, roman américain ce matin, Nicolas. Un peu spécial. Hein.
À plein d'égards, la couverture d'abord regardée magnifique. Une voiture de nuit garée dans une zone résidentielle avec un type derrière
ouais,
à moitié
un peu peur, hein.
Effacé par la nuit. Le roman s'appelle Les Vagabonds, signé Richard Lange chez Rivage. Et alors accrochez-vous, on est en 1976. Jesse, le héros, déprime un peu. Il se rappelle que ça fait 75 ans qu'il n'a pas vu la lumière du jour, ça fait un bail, ça l'ennuie. Sentir la chaleur du soleil sur son visage, jouer avec les ombres des feuilles, ça lui manque. Et justement, il vient de rêver qu'il marchait sur une route en plein jour. Mais il est réveillé par son frère Edgar qui le suit partout. Edgar, c'est un costaud, mais pas très malin malheureusement. Il est un peu attardé et donc Jesse veille sur lui.
Attendez, vous dites que ça fait 75 ans qu'il n'a pas vu la lumière. Il est pas tout jeune, ce Jesse. Hein.
Non, mais il a l'éternité devant lui à condition de trouver du sang frais puisque Jesse et Edgar sont des vampires. Mais pas avec une cape à double rouge et un charme d'aristocrate, ce sont des vampires tranquilles, sans les oripeaux du genre. On les appelle vagabonds d'ailleurs et pas vampires. On les rencontre dans un motel cradingue, lieu de rencontre entre prostituées et camionneurs. C'est une bonne étape gastronomique pour eux. Personne pour réclamer les victimes. Ce sera Candy ce soir-là. Ça va mal finir pour elle. Net rapide, il n'y a pas de cruauté chez eux. Faut bien se nourrir, c'est tout. Et ensuite, ils effacent leurs traces et font disparaître le corps. C'est une règle chez les vagabonds. Ne rien laisser, sinon les autres, nous finirons par faire le rapprochement et ils seront traqués. C'est ce qui s'est passé il y a quelques siècles en Europe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont débarqué aux États-Unis. C'est Edgar qui creuse en général, tout en soliloquant sur ses rêves. Lui, il aimerait vraiment, 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 vraiment aller à Disneyland. Mais c'est pas trop le truc de Jesse. Vous voyez,
très bonne idée, oui.
Tout un tas de personnages aussi géniaux les uns que les autres. Charles à la recherche de l'assassin de son fils. Johanna, une jeune fille que les deux frères protègent. Et un groupe de bikers vraiment très, très méchants qui les pourchassent. Il y a un côté des souris et des hommes, mais aussi western, film d'action haletant, on peut, si on veut, mais on n'est pas obligé, y voir une métaphore sur les laissés pour compte, les invisibles, ce que vous voulez, mais on peut aussi se contenter de lire ce roman et profiter du style qui sonne juste et de la chevauchée dingue, recommandée d'ailleurs par Stephen King lui-même.
Richard Lange, donc Les Vagabonds. Merci beaucoup Nicolas Carreau. Les sorties cinéma, Laurie Choleva. Alors après le rôle de D'Artagnan le mousquetaire, François Civil revient cette semaine dans un drame intimiste en milieu scolaire.
Oui, avec le film Pas de vague de Teddy Lucie Modeste, où il joue un jeune prof de français idéaliste accusé d'harcèlement sexuel par l'une de ses élèves qui va être pris dans un engrenage infernal.
Tu pourrais passer me voir ?
Un problème ?
Non, rien de grave, mais passe me voir après.
Tu as harcèlement ?
Il a dit qu'elle était fraîche.
Mais oui, les chiffres, je parlais de l'eau.
Sauf qu'il l'a dit en me regardant dans les yeux.
Alors le film est construit comme un thriller, hein, c'est vraiment ça qui est intéressant et il nous embarque dans cette double descente aux enfers, celle de ce prof qui a sans doute voulu trop en faire afin d'être le prof qui va changer la vie de ses élèves, et puis celle de cette victime qui a mal interprété les propos de son professeur mais qui ne peut plus revenir en arrière. Faut savoir que François Civil, il livre une prestation absolument remarquable, tout en subtilité, tout en nuance dans ce film coup de poing qui pointe quelque part aussi les défaillances du système scolaire et le manque d'accompagnement parfois dans ce genre de situation.
À voir aussi sur les écrans cette semaine, Laurie, Jude Law qui revient et qui casse son image.
Et c'est vrai, il le dit lui-même avec le film Le Jeu de la Reine, il avait envie de casser son image de gentleman, pour ne pas dire de playboy. Il incarne donc dans ce biopic historique de Karim Enouz, le roi, le terrible roi Henri VIII, celui qu'on surnommait Barbe Bleue, un roi sadique, violent, très craint et tristement connu pour ses 6 épouses, dont 2 qui furent reniées et 2 qu'il fit décapiter. Et justement, le film s'intéresse à sa relation avec sa dernière épouse, Catherine Parr, interprétée par Alicia Vikander.
J'ai l'intime conviction que j'ai été choisie par Dieu pour l'amener à penser autrement.
Vous êtes un esprit vif. Cela vous a mené trop loin.
À quoi peut-il me servir d'être reine si je n'ai pas le courage de mes convictions ?
C'est un grand film féministe hein, qui montre comment cette femme n'a pas eu peur de s'imposer face à son tyran de mari. C'est un hommage aux femmes maltraitées, aux femmes menacées. Alicia Vikander, par sa douceur et par son intelligence de jeu, nous embarque vraiment à ses côtés. Et puis vraiment, Jude Law, métamorphosé, méconnaissable, livre une interprétation stupéfiante. Pour l'anecdote, sur le tournage, en fait, il vaporisait des parfums nauséabonds autour de lui pour provoquer le dégoût de ceux qui l'approchaient, afin de rendre encore plus crédible son personnage. Et c'est très réussi. Sympa. Jusqu'au bout. Hein.
Ouais, jusqu'au bout. Merci beaucoup, Laurie Choleva, qu'on va retrouver ce week-end sur Europe 1 dans Clap.
Oui, Clap, c'est l'émission cinéma d'Europe 1 tous les samedis de 19h à 20h. Et samedi, vous recevez Laurie, Isabelle Carré pour le film et plus si affinité.
Merci beaucoup, les amis. À demain. Dans un instant, votre édito politique, Vincent Trémollet de Villers, juste après le journal permanent Nina Pavant.
Gabriel Attal réunit le gouvernement en séminaire ce matin à Matignon au menu des échanges. Les pistes possibles pour endiguer le déficit public. Le Premier ministre invité du JT de TF1 ce soir à 20h. Garde à vue levée ce matin pour les trois personnes entendues dans l'affaire Lina, disparue en septembre dernier en Alsace. Un couple et un homme étaient interrogés sur des incohérences dans leur emploi du temps. On en sait plus sur le profil du violeur à la trottinette qui sévit à Grenoble, toujours activement recherché par la police. Il s'agirait d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, environ 1m70, d'origine européenne, les yeux marrons, légèrement roux. Il aurait fait 9 victimes, des femmes qui rentraient seules chez elles le soir. On l'a appris hier, la Fédération française de football victime à son tour d'une cyberattaque. Une enquête est ouverte alors que plus d'1,5 million de données personnelles auraient été dérobées.
7h, 9h, Europe 1 matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à
bonjour
tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, depuis hier et l'annonce du chiffre du déficit, le gouvernement est ciblé de toutes parts. Bruno Le Maire répond que LR, que le Rassemblement National et la gauche n'auraient pas fait mieux. Quels sont, Vincent, les effets politiques de ces mauvais chiffres ?
Disons que c'est une brique de plus sur le mur de défiance qui sépare les citoyens des politiques. Le problème, c'est moins le pourcentage, 5,5 plutôt que 4,9, que le sentiment d'avoir été trompé par un pouvoir dont on connaissait les limites dans le gouvernement des hommes, mais que l'on croyait fiable dans l'administration des choses. Pour le dire autrement, Emmanuel Macron, son cabinet, ses ministres, c'était l'inspection des finances, l'exactitude mathématique, la technoparade. Il ne trouvait pas toujours les mots pour parler aux électeurs, mais au moins on pouvait croire qu'ils étaient incontestables dans la précision des chiffres. Quand ces mêmes experts disent qu'ils se sont trompés dans leur prévision de 16 milliards, les citoyens pensent inévitablement, soit ils se moquent de nous, soit les premiers de la classe étaient en fait des cancres. D'autant qu'un contribuable qui se trompe dans sa déclaration d'impôt, un chef d'entreprise dans son budget, sait que la sanction sera immédiate. C'est l'effet le plus spectaculaire de cette histoire. La surcompétence revendiquée par le gouvernement en matière économique se retourne contre lui. Ces mauvais chiffres mettent le pouvoir, si j'ose dire, cul par-dessus dette.
Ces mauvais chiffres font aussi revenir, Vincent, le spectre de l'impôt.
Et oui, c'est là que politiquement les choses deviennent explosives. Emmanuel Macron a baissé les impôts des plus fortunés, réduit ceux des entreprises et n'a pas augmenté ceux de la classe moyenne supérieure. Cette modération fiscale relative, hein, puisque nous sommes à 45% de prélèvements obligatoires, permet au chef de l'État de conserver un socle électoral qui le soutient envers et contre tout. S'il cède sur les super-profits, comme sur toute autre hausse d'impôts, il perdra ses derniers fidèles, et c'est pour cela qu'il devrait tenir sa promesse. Tout au moins en apparence. Parce que le diable fiscal se cache dans les détails, dans la suppression des niches, dans la hausse discrète des taxes, et surtout dans la grande tentation, celle d'une société sous conditions de ressources. Hier, Bruno Le Maire s'est dit prêt à étudier toutes les propositions, même celles qui consistent à faire dépendre le remboursement de médicaments du niveau de revenu. Cela voudrait donc dire qu'une partie de la population paierait deux fois, c'est-à-dire en amont et en aval. La France deviendrait ce pays où les impôts sont au taquet, la dépense publique au sommet, les services publics défaillants et où ceux qui contribuent le plus paieraient le double. C'est open bar pour le trésor public, mais c'est le meilleur moyen de déclencher la révolte des contribuables.
Reconnaissez aussi, Vincent, que les Français n'ont jamais été très sensibles au sujet de la dette et ils trouvent très naturel, quand ça va mal, d'aller demander de l'aide à l'État.
Oui, je reconnais que les Français ne sont pas avares de contradictions et que l'État entretient de façon malsaine leur dépendance à la dépense publique. Aujourd'hui, les oppositions rivalisent de sérieux, mais dans le passé, on les a connues beaucoup plus cigales que fourmis. Pierre Moscovici joue les perles à vertu, mais franchement, c'est le socialisme qui se moque du macronisme. La vérité, c'est que cela fait longtemps que ceux qui nous gouvernent pensent que la politique, c'est gagner du temps. Jusqu'ici, ça tient, c'est leur seule philosophie que l'on retrouve sur la sécurité, sur l'immigration, sur l'école ou sur le budget. Jusqu'ici, ça tient, jusqu'à l'heure où ça ne tient plus. C'est ce moment de cristallisation que nous vivons dans les finances publiques. Alors concrètement, ce sont les Français qui, à la fin, mettront la main à la poche. Politiquement, c'est Emmanuel Macron qui risque de payer l'addition.
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Tiens, la Cour des comptes qui a dit, Pierre Moscovici, que c'était très très rare hier de voir une telle erreur d'appréciation de la dette. Merci Vincent. La Une du Figaro, consacrée justement à la déroute budgétaire qui réveille la tentation de l'impôt. Va-t-on faire les poches des Français en plus de faire la chasse aux économies? Ça commencera peut-être par l'assurance chômage dès ce soir avec des annonces prévues de Gabriel Attal. On va en parler dans le journal de 8h. À demain Vincent.
Il est 7h56. Merci d'avoir choisi Europe 1. Très bon début de journée. Nous sommes le mercredi 27 mars.
Mercredi saint et nous fêtons ce jour saint Rupert qui fut évêque de Worms en Rhénanie au 7e siècle, puis évêque de Salzbourg en Bavière dont il demeure le saint patron. Au programme de la prochaine heure, 8h30, Gaspard Proust avec nous. Juste après, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews, Maud Bréjon, la députée Renaissance face à Sonia Mavrouk. Nous sommes le mercredi 27 mars. Il est 8h.
La progression salariale doit toujours permettre de récompenser l'effort et le mérite. Alors oui, j'assume de le dire, il faut désmicardiser la France.
Rappelez-vous, Gabriel Attal, discours de politique générale à l'Assemblée, c'était le 30 janvier dernier, désmicardiser la France, remettre les chômeurs au travail, faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Voilà le menu du séminaire gouvernemental ce matin autour du Premier ministre. Explication dans un instant. La colère des parents d'une école de Firminy dans la Loire, leurs enfants caillassés dans la cour par des dealers. Témoignage édifiant dans un instant. Cette information Europe 1 également, alors que le plan Vigipirate a été relevé à son maximum, les autorités craignent le réveil de cellules terroristes dormantes. 20 000 personnes sont fichées en France pour radicalisation. Et puis le numéro 2 du Hamas à Gaza, liquidé par Israël. Il avait participé à l'élaboration de l'attaque meurtrière du 7 octobre, affirme l'État hébreu. 8h10, juste après ce journal, votre invitée Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invitée, c'est la porte-parole des députés Renaissance, Maud Bréjon. Face au dérapage des déficits publics, le gouvernement, vous l'avez dit, est ciblé de toutes parts. Alors les Mozart de la finance sont-ils devenus les cancres de la classe? À tout à l'heure.
Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Un maître mot, économie. La France n'a pas le choix. Avec un déficit de 154 milliards d'euros, il faut baisser notre train de vie. Ce matin, Gabriel Attal réunit un séminaire gouvernemental de 10h à midi à Matignon, en lieu et place du Conseil des ministres, annulé puisqu'Emmanuel Macron est au Brésil. J'axerai au menu de ce séminaire le travail, fil rouge de la rigueur et de la responsabilité. Ce sont les mots du Premier ministre.
Le travail comme solution pour renflouer les caisses de l'État, c'est en somme ce que veut démontrer Gabriel Attal ce matin. Et trois angles d'attaque sont à l'ordre du jour de ce séminaire gouvernemental. D'abord, inciter les Français sans emploi à retrouver un travail. Gabriel Attal devrait annoncer une réforme de l'assurance chômage, comprenant une baisse de la durée d'indemnisation, aujourd'hui fixée à 18 mois. Il est incompréhensible de constater que notre taux de chômage stagne à 7%, alors que les entreprises cherchent à recruter, justifie-t-on dans l'entourage du Premier ministre. Ensuite, l'hôte de Matignon veut trouver des pistes pour, je cite, « désmicardiser la société française », comme il l'avait annoncé il y a deux mois lors de sa déclaration de politique générale. Enfin, Gabriel Attal dit vouloir réfléchir aux nouvelles formes de travail, à commencer par la mise en place de la semaine de 4 jours. Pour montrer l'exemple, les administrations des ministères lanceront une expérimentation dans les prochains jours et pour une durée d'un an au moins.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Et sur un autre sujet, Gabriel Attal avait avancé ce chiffre la semaine dernière. 200 écoles se situent à proximité d'un point de deal en France.
Et alors que les opérations PlaceNet XXL se multiplient sur le territoire, on a vu hier un établissement scolaire confiné à Valence dans la Drôme. Des élèves terrifiés par une fusillade non loin de l'école, évacués par la police municipale. Les trafiquants n'ont que faire de la sanctuarisation des écoles, à tel point qu'à Firminy, près de Saint-Étienne dans la Loire, on trouve des sachets de drogue dans la cour, situation que dénoncent les parents d'élèves ce matin sur Europe 1.
Des jeunes cachent ou jettent des sachets de des substances qu'ils consomment dans l'école pour éviter, je pense, les patrouilles policières. Et en fait, je me suis rendu compte que ma fille savait et qu'ils alertaient les maîtresses à chaque fois qu'il y avait quelque chose de suspect. La police est intervenue sur place pour récupérer les sachets. En guise de représailles, ces jeunes ont lancé des cailloux sur les enfants qui étaient dans la cour de récréation. Ils les ont même menacés à l'aide d'un taser. Je crains pour leur sécurité, même à l'intérieur de l'enceinte de l'école.
Et ce matin sur Europe 1, le maire LR de Firminy, Julien Luyat, minimise, tente d'apaiser et pointe la responsabilité des parents. Écoutez.
On a une forme de jeunesse
qui est sur une forme quand même un peu d'hérédité. Souvent, les parents de ces jeunes gens n'ont souvent pas donné de valeur, quoi que ce soit, qui n'ont rien transmis à leurs enfants. Et eux, en fait, ils arrivent à 12, 13, 14 ans et ils trouvent tout à fait normal d'aller faire le guet sur un point de deal pour faire un peu d'argent de poche. Certains sont scolarisés, puis dès qu'ils quittent le collège, eh ben, ils vont sur leur point de deal. Ils font ça comme un travail, quelque part.
Julien Luya, invité ce matin sur Europe 1, interview complète à retrouver sur europe1.fr.
En Alsace, à présent, l'enquête sur la disparition de Lina Patine, toujours.
Les trois gardes à vue ont été levés cette nuit, faute d'éléments incriminants. Selon une source proche de l'enquête, voilà 6 mois que l'adolescente de 15 ans s'est volatilisée alors qu'elle se rendait à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin.
Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
Venons-en à cette information Europe 1, alors que la France est en urgence attentat. À nouveau, plus de 20 000 islamistes sont inscrits au fichier des radicalisés.
Et nombre d'entre eux sont des membres dormants de la branche afghane de l'État islamique qui a revendiqué l'attentat de Moscou vendredi dernier. Alors qui sont ces islamistes qui menacent la République? Quel âge ont-ils? Où se trouvent-ils? William Molinier, vous avez mené l'enquête pour Europe 1 et vous pouvez ce matin nous dresser un portrait robot.
Les islamistes recensés en France sont majoritairement des hommes, à 82%. Leur moyenne d'âge est de 34 ans et demi, un peu moins 33 ans pour les femmes. 20% sont des étrangers, 10% des binationaux. Selon une carte confidentielle qu'Europe 1 a consultée, les radicalisés les plus dangereux, ceux qui sont suivis activement par les services antiterroristes, résident dans les zones des grandes métropoles, Lille, Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille et Toulouse. Une répartition qui colle à la quasi-perfection avec celle des attentats commis depuis 2017. Autrement dit, plus une ville abrite une population radicalisée, plus elle est susceptible d'être touchée par le terrorisme. Autre enseignement, peu, voire très peu, des cibles de la DGSI souffrent de troubles mentaux. Ces radicalisés du haut du spectre ne sont pas fous. Ils relèvent plutôt d'une dangerosité qu'on appelle criminologique, liée à leur environnement et leur éducation. Sur eux, les médicaments sont inefficaces. Contrairement aux radicalisés psychiatriques, ils sont moins suivis car les services de renseignement considèrent que le risque du passage à l'acte violent est minimisé grâce au traitement médical qui leur est imposé.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
À Gaza, malgré la résolution des Nations Unies appelant à un cessez-le-feu immédiat, Israël poursuit ses frappes.
Son objectif est inchangé, éradiquer le Hamas. Tzahal vient d'ailleurs de confirmer avoir éliminé le numéro 2 de la branche armée du groupe terroriste palestinien, Ariane Ménage.
Il était surnommé l'homme de l'ombre, longtemps resté insaisissable. Marwan Issa a été tué dans une frappe de l'armée israélienne. C'était il y a 2 semaines près du camp de réfugiés de Nousserat, dans le centre de la bande de Gaza. Selon des informations relayées par la presse israélienne, le chef adjoint des brigades Qassam, la branche armée du Hamas, se trouvait alors dans une base souterraine. Après avoir vérifié tous les renseignements, affirme le porte-parole de Tzahal, sa mort peut maintenant être confirmée.
Marwan Issa est l'adjoint de Mohamed Deif. Il est numéro 2 du Hamas et l'organisateur du massacre du 7 octobre. Nous continuerons nos efforts pour poursuivre et atteindre les chefs du Hamas.
Déjà annoncé par les États-Unis il y a quelques jours, la mort de Marwan Issa n'a jusqu'ici pas été publiquement reconnue par le Hamas. En 5 mois et demi de guerre, c'est le plus haut responsable du mouvement islamiste tué à Gaza par l'armée israélienne.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.
Et puis, comment soigner les troubles 10? Aucun traitement n'existe. Vous savez, 10 comme la dyslexie, entre autres, la dyspraxie, aucun traitement n'existe. Mais il y a peut-être une lueur d'espoir.
Oui, qu'il s'agisse effectivement de dyslexie, la difficulté à lire et écrire, on peut le préciser, la dyspraxie qui rend la coordination des mouvements compliquée, ou bien la dysphasie, le trouble du langage. Plus 1 million d'enfants concernés en France. Pour les aider, la société française Poppins a créé un jeu vidéo interactif testé par les hôpitaux de Paris. Ses résultats publiés hier montrent de réels progrès, Yasmine Akatou.
Retrouve le mot. Côté.
Sur la tablette, un petit personnage coloré demande à l'enfant de reconnaître un mot ou de reproduire une mélodie en tapant des mains. Grâce à ce jeu, Emmanuel David, dont le fils est dyslexique, a vu une évolution spectaculaire au bout de quelques semaines.
Ça a été moins de fautes d'orthographe. Les erreurs de lecture aussi sont beaucoup moins fréquentes. Avant, il inventait des mots. À l'écrit, il oublie beaucoup moins les lettres. J'évoquais cette dernière dictée, 20 sur 20. Alors on part de loin, hein. Les premières dictées, c'était 24 fautes.
Des progrès, notamment grâce à la musique très présente dans le jeu qui permet d'améliorer des connexions cérébrales, explique Catherine Grosmaître,
neuropsychologue.
Ces enfants dyslexiques, ils ont des particularités au niveau cérébral, et notamment un faisceau arché qui relie les aires antérieures et postérieures du cerveau, qui est moins développé. Or, ce faisceau arché joue un rôle fondamental dans la phonologie.
Téléchargeable sur téléphone et tablette, le jeu permet aux parents de débuter une prise en charge à domicile, alors qu'il faut compter en moyenne 1 an et demi pour obtenir un rendez-vous chez l'orthophoniste.
Yasmine Akato, spécialiste santé d'Europe 1. Et puis à 3 mois des Jeux Olympiques, on l'apprend à l'instant, la flamme olympique qui va être allumée à Olympie dans 2 semaines sera exposée dans le Jardin des Tuileries à Paris, lieu accessible à tous entre le Palais du Louvre et la Concorde. Il était tenu secret jusqu'ici, mais ça y est, le comité d'organisation et la mairie de Paris qui l'avait choisi il y a plusieurs semaines ont laissé fuiter l'information.
Et bien voilà, c'est fait. Merci c'est beaucoup fait. Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans la prochaine heure, Emmanuel Ducrot va nous parler fromage, camembert, roquefort. Savez-vous que ces 2 fromages stars de nos plateaux sont en voie de disparition. Nous verrons pourquoi avec elle. Gaspard Proust sera avec nous également à partir de 8h30. Juste après, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews ce matin, la députée Renaissance des Hauts-de-Seine, Maud Bréjon, face à Sonia Mabrouk.
Bienvenue et bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci de votre présence. Vous êtes porte-parole des députés Renaissance et également députée des Hauts-de-Seine. On va beaucoup parler évidemment des déficits publics. Mais tout d'abord, Maud Bréjon, on a appris que le proviseur de la cité scolaire Maurice Ravel à Paris allait quitter ses fonctions pour des raisons, dit-on, de sécurité. C'est ce proviseur, je le précise à nos auditeurs et téléspectateurs, qui a été menacé de mort après avoir demandé à une étudiante d'ôter son voile. Le rectorat parle d'un départ à la retraite anticipée, mais en termes de symbole, un proviseur, donc quelqu'un qui doit incarner l'autorité, qui part. Quel signe est-ce que ça renvoie selon vous ?
Déjà, de toute évidence, il faut nommer les choses. Hein. 20 ans après cette grande loi de 2004, il y a une mouvance islamiste en France qui veut briser l'école de la République. Moi, je crois que notre responsabilité en tant que politique, de tout parti confondu, c'est d'une part de le dénoncer et d'autre part de le combattre, de dire la laïcité, rien que la laïcité et que la laïcité. Je comprends. Je ne connais pas le détail et le fond de l'affaire et ce sera au rectorat de s'exprimer dessus. Mais je comprends que lorsque c'est l'enseignant, le chef d'établissement qui quitte l'école et non pas ceux qui l'ont harcelé, ceux qui l'ont agressé, ça puisse choquer les gens qui nous écoutent. Je crois qu'encore une fois, faut pas se tromper. L'autorité, elle est du côté des chefs d'établissement, elle est du côté des enseignants et donc nous, on se doit de soutenir cette communauté éducative.
Alors c'est important ce que vous dites, fermeté dans vos mots, mais est-ce que le soutien est suffisant ? On est dans le pays où il y a eu les attaques terroristes contre 2 professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard. Est-ce que les professeurs sont suffisamment soutenus, protégés dans notre pays ?
Oui, je crois que la première chose, c'est d'abord la parole politique. On doit avoir une parole politique extrêmement ferme. Et depuis quelques années maintenant, je pense notamment à tout ce qu'a fait Gabriel Attal quand il était ministre de l'Éducation nationale et aujourd'hui en tant que Premier ministre, il y a un portage politique. Il y a une voix qui s'est élevée pour nommer les choses, pour soutenir encore une fois ce monde de l'éducation à qui on doit beaucoup, qui se lève tous les matins avec un seul objectif. C'est la réussite de nos élèves.
Et avec la boule au ventre aussi.
Et parfois, effectivement,
enseigner,
avec
de pas
des difficultés
des
sur l'enseignement. Et donc, on met les moyens dans les rectorats, avec des équipes d'accompagnement, avec des protections renforcées quand il y a besoin. C'est ce que fait le ministre de l'Intérieur, pour être toujours à leur côté.
Dans l'actualité, Maud Bréjon, les oppositions ciblent tout autre chose, les opérations dites place nette de Gérald Darmanin contre les trafics de drogue, des opérations de communication selon vos opposants. Très sincèrement, quand on écoute les spécialistes et les policiers, ils dénoncent une sud-américanisation et une cartélisation de la France. Est-ce que de telles opérations, c'est à la hauteur du défi ?
Quand on fait 500 interpellations, plus de 500 interpellations en l'espace du 10 jours, moi j'appelle pas ça de la communication. C'est quoi place nette ? Au fond, c'est d'abord des moyens supplémentaires. Environ 10 000 policiers et gendarmes dédiés, des unités de force mobile. Ensuite, c'est une action sur plusieurs semaines, environ 3 semaines. Et puis, c'est un ciblage en amont d'objectifs de ce haut du panier, si je puis dire, des trafiquants en France qu'on va chercher. On continuera à le faire. Moi, je comprends que ce soit difficile de lutter contre la drogue. Mais je pense que de ne pas le faire, de laisser les trafics gangréner nos quartiers, de laisser les trafiquants vendent la mort à nos jeunes. Ce serait un renoncement moral et politique.
Nous sommes d'accord. Mais quelle efficacité, vous dites, et c'est à raison, 500 interpellations. Et après, quelle suite judiciaire ?
Mais on doit continuer.
Est-ce que l'arsenal judiciaire est aujourd'hui à la hauteur d'une telle gangrène ?
On doit continuer. Et là-dessus, la police et la justice travaillent main dans la main. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, encore une fois, pour harceler les dealers, pour harceler les points de deal. On le fait depuis...
Ils reviennent
on
juste
le
après.
Fait. On le fait plusieurs années. Mais
déplacés.
On continuera à le faire. Parce que c'est pas parce que c'est difficile. C'est pas parce qu'une politique prend du temps qu'on doit baisser les bras. Et moi, je vous le dis, Sonia Mabrouk, ne comptez pas sur le ministre de l'Intérieur pour lâcher l'affaire. On continuera.
Mais par exemple, hier, Bruno Le Maire, alors qui a été entendu au Sénat sur les narcotrafiquants lors d'une commission d'enquête à ce sujet, voici ce qu'il dit. Il affirme qu'il serait favorable pour sortir du cadre actuel et d'imaginer un cadre d'exception, un peu comme pour le terrorisme, c'est-à-dire imaginer un autre arsenal judiciaire pour lutter contre ces trafics. Est-ce que vous seriez favorable ?
Tout arsenal judiciaire qui serait plus efficace pour enrayer les trafics et rétablir la sécurité dans les quartiers partout en France, j'y suis par principe favorable. Moi, ce que je dis, c'est qu'on doit continuer ce que fait le ministre de l'Intérieur, encore une fois sur le terrain, avec des gendarmes et des policiers.
Pourquoi les oppositions n'y croient pas ? Vous devriez tous être unis sur ce point. Hier, j'ai entendu un député du RN dire que c'est les opérations McKinsey du nom de ce cabinet de conseil, comme si vous ne faisiez que du vent et des mots.
Mais quelle insulte fait au travail des policiers et des gendarmes ? Qui se lèvent tous les matins, qui risquent leur vie. Je pense par exemple, on voit ce qui se passe à Marseille, on voit ce qui se passe à Roubaix, on voit ce qui se passe dans le Nord, avec des résultats qui sont là. Bien sûr, ça prend du temps. Bien sûr, c'est difficile. Bien sûr qu'on réussit pas tout le temps. Mais c'est à force de persévérance qu'on y arrive.
Un mot sur, là on est encore sur le plan de la sécurité, mais on parle de la menace terroriste. D'ailleurs à ce sujet, quelle est selon vous, Maud Bréjon, la menace la plus grande qui pèse sur nous ? Est-ce que c'est la menace islamiste ou est-ce que c'est la réalité de la guerre en Ukraine et donc Vladimir Poutine ?
C'est deux choses extrêmement différentes. Mais quand on parle de terrorisme, la principale menace, c'est indéniablement la menace islamiste. Et on doit dire la vérité aux Français. On a une menace qui est aujourd'hui très élevée. Pour autant, on n'a jamais été aussi armé. Je pense par exemple à tout ce qu'on a fait sur les renseignements. On a augmenté de 50% les effectifs de la DGSI. On a doublé les moyens de la DGSI. On a rajouté un arsenal juridique pour pouvoir tracer, pour pouvoir expulser les personnes qui, lorsqu'elles sont étrangères et en situation irrégulière, les expulser du sol français. C'est ce qui nous permet d'avoir empêché deux attentats depuis le début de l'année environ. 8, je crois, depuis 2 ans. Donc on avance, on y arrive, on a des résultats. Mais encore une fois, moi je crois que le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur ont raison d'être clairs et de dire la vérité.
Dans l'opposition, on vous accuse de vouloir faire peur aux Français pour déclencher une sorte de réflexe de vote de sécurité aux Européennes. Olivier Marleix l'a dit hier dans le Figaro. Si tel est le cas entre la menace, enfin la réalité de la guerre en Ukraine et la menace terroriste, la ficelle est un peu grosse en pleine campagne.
Mais qui fait de la communication ici ? Que voudrait Olivier Marleix ? Il voudrait qu'on ne fasse rien, qu'on ne lutte pas contre les attentats, qu'on n'explique pas aux Français quelle est la menace qui pèse sur nous. C'est une drôle de façon de se comporter quand on est responsable politique. Et de toute évidence, ça se voit qu'on parle là d'un parti qui n'a pas été au pouvoir depuis 15 ans. Il devrait peut-être se poser quelques questions.
Il s'en pose dans un autre domaine, celui des finances publiques et des affaires économiques. D'ailleurs, vous êtes membre, Maud Bréjon, de la Commission des affaires économiques. Face à l'explosion de la dette et surtout le dérapage des déficits, Bruno Le Maire dit avoir une détermination totale pour revenir dans les clous. Ôtez-nous d'un doute ce matin. Il est bien ministre de l'économie depuis plusieurs années.
Oui, bien lui. Bruno Le Maire est ministre de l'économie depuis 7 ans. Et d'ailleurs, il faut regarder ce qui s'est passé depuis 7 ans. Sur les trois premières années, de 2017 à 2020, on était repassé sous la barre des 3% de déficit. Et qu'est-ce qu'il y a eu ensuite ? Il y a eu la crise du coronavirus et il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui a entraîné notamment la hausse des prix de l'énergie. On se devait de protéger les Français. Et moi, je ne regrette pas les décisions qui ont été prises. Parce qu'encore une fois, on a protégé ceux qu'on avait le plus besoin lorsqu'on ne pouvait plus aller travailler pendant la pandémie et avec le bouclier tarifaire lorsque l'énergie a augmenté.
Dites-nous, s'il y a eu cette situation, pardonnez-moi, Maud Bréjon, pourquoi les autres pays l'ont subi de la même manière ? Ils ont subi le Covid, il y a eu les conséquences pour le Portugal, pour la Grèce, pour l'Espagne,
avec une inflation qui n'avait
avec ils font de meilleurs chiffres
avec une inflation qui n'avait rien
toujours
à voir
toujours des circonstances atténuantes avec aucune responsabilité
mais parce que la France a mieux protégé ses concitoyens qu'ailleurs en Europe et je pense que ça c'est une fierté, on doit le revendiquer. D'ailleurs, je n'entendais pas beaucoup les oppositions à l'époque dire qu'il ne fallait pas de bouclier tarifaire ou qu'il ne fallait pas prendre en charge le salaire des Français qui ne pouvaient pas aller travailler durant la crise du coronavirus. Une fois qu'on a dit ça, on est aujourd'hui à une croisée des chemins. On a des choix à faire. Ces crises sont derrière nous, l'heure est au choix. On a trois possibilités. D'une part, soit on ne fait rien. On laisse le déficit filer, on va vers un scénario comme ce qu'a vécu la Grèce, on sait où ça termine. Autre possibilité, certains le demandent, on augmente les impôts. Alors, c'est une ligne rouge absolue.
Ah bon ?
C'est une ligne rouge absolue. Attendez, en tout cas, c'est la mienne.
C'est la vôtre.
C'est la mienne.
Donc
je
vous
la
êtes
partage
pas sur
pleinement.
La ligne que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet.
Je suis parfaitement sur la ligne de Bruno Le Maire. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est déjà dans un pays le plus imposé de l'ensemble des pays développés. 70% de l'impôt sur le revenu est payé par 10% des Français. Les plus aisés, les entreprises les plus importantes contribuent déjà beaucoup. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que je pense qu'on ne doit pas dévier de notre politique d'attractivité. Celle qui nous a permis de créer 400 000 entreprises l'année dernière, celle qui a permis de créer 2 millions d'emplois depuis 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'objectif, c'est le plein emploi. Mmh. Et le Premier ministre aura l'occasion d'y revenir dans les jours à venir. C'est le meilleur atout face au déficit.
Donc, pour vous ?
Parce que quand on crée de l'emploi, en fait, c'est moins de dépenses et c'est plus de recettes.
Maud Bréjon, si je comprends bien, augmentation des impôts, c'est une ligne rouge, comme l'a dit Bruno Le Maire, donc pas la même position, par exemple, que certains dans la majorité, comme Yael Braun-Pivet, qui affirme qu'il faut avoir un débat sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ce matin, que vous ne céderez pas à la hausse des impôts ?
Encore une fois,
Promesse, moi, je
ne dévierai pas de cette ligne. Je pense que le courage, c'est d'interroger les dépenses actuelles.
Alors, allons-y. Dépenses sociales, assurance chômage pour la réforme. Est-ce que vous êtes prête à dire qu'il faut justement
La dépense sociale en France depuis l'année 2000 a doublé.
Oui.
A doublé. Le dernier budget voté à l'équilibre, c'était en 1974. Donc on doit nécessairement s'interroger. On voit que d'un côté, on a des Français qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts et en même temps des services publics qu'ils considèrent comme étant pas à la hauteur. Donc il faut arrêter de réfléchir en termes de volume de dépenses, il faut qu'on arrive à réfléchir en termes d'efficacité.
Donc sur la durée, par exemple, d'indemnisation de l'assurance chômage, vous dites il faut y travailler.
Et à l'heure où on a énormément d'emplois qui ne trouvent pas preneur chaque année, mais bien sûr qu'on doit continuer à inciter les gens à retourner vers l'emploi.
Donc réduire encore la durée d'un...
Et on ne doit pas le faire n'importe comment. Moi, je suis favorable à réfléchir à une autre réforme de l'assurance chômage. En revanche, je dis que ça doit se faire avec un accompagnement des chômeurs.
D'accord, donc durcissement, mais accompagnement quand même.
Parce que les chômeurs ne sont pas coupables. Mmh. Il faut réfléchir, par exemple, lorsqu'on parle des chômeurs de longue durée, à comment est-ce que vous levez les freins à l'emploi, comment est-ce que vous travaillez à cette réinsertion. C'est notamment ce qu'on a fait avec la réforme du RSA. Et il faut continuer à mettre des moyens sur la formation, parce que ce qui compte à la fin, c'est que chacun trouve un emploi, que chacun reste dans son emploi et que chacun vive bien de son emploi.
Donc ce matin, porte-parole des députés Renaissance, vous nous dites sur CNews Europe 1 que c'était une ligne rouge, l'augmentation des impôts, qu'il faut travailler sur et continuer cette réforme de l'assurance chômage. Bruno Le Maire a également évoqué, Maud Bréjon, cette piste du remboursement des médicaments en fonction du niveau de revenus. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on pourrait payer plus en fonction de ses revenus ? C'est une sorte d'open bar, en fait, qui pourrait déclencher quand même une révolte au pays, justement, qui est le plus imposé. Non, est-ce que ça vous semble être une piste crédible ?
Il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui sur l'ensemble des dépenses de santé, avec évidemment des principes de base. Les personnes qui ont besoin d'être soignées doivent avoir accès, comme c'est le cas aujourd'hui, à un système de santé, à un système de soins, à des médicaments. Mais on ne doit pas avoir une approche consumériste de la santé, consumériste des médicaments. Et donc, là-dessus, il y a un travail à faire avec les Français, probablement avec les médecins également. Et donc, c'est ce vers quoi on va réfléchir dans la semaine
à venir. La crainte ce matin, c'est qu'à la fois, vous taillez dans les dépenses et vous nous fassiez les poches. C'est quand même la double peine.
Encore une fois, je le dis, on est opposé à toute augmentation d'impôts. Ça a été le cas depuis 2017.
Est-ce que vous aurez le choix ?
On a même baissé les impôts. On a baissé les impôts des Français. On a baissé les impôts des entreprises.
Enfin, si on rentre dans les niches...
Pour rendre les pouvoirs d'achat et pour permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Ça a porté ses fruits. On est un des pays qui a les meilleurs résultats en termes de croissance cumulée depuis 2017. On a créé des entreprises, on a créé des emplois.
Et alors tout va bien, ça nous a échappé.
Et en même
temps... Est-ce que vous employez le mot fierté, vous l'avez employé tout à l'heure, pour la situation économique actuelle, vu le niveau de dérapage et déficit. Vous diriez, vous êtes fier du bilan du gouvernement ?
Ah, je suis fier, par exemple, de tout ce qui me fait en matière de réindustrialisation. Je suis fier qu'en France, des usines ouvrent alors qu'avant, des usines fermaient. Je suis fier qu'on relance l'industrie nucléaire qui va créer des milliers d'emplois. Et pour autant, je dis qu'en matière de dépenses sociales, on ne peut pas laisser accumuler les aides et grimper, si je puis dire, l'escalier de la dépense sans jamais le descendre. On ne peut pas en permanence dire...
C'est pas comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis quelques années.
Mais moi, j'entends des gens qui disent qu'il faut augmenter les dépenses et augmenter les impôts.
Y compris dans votre majorité.
C'est pas notre ligne. En tout cas, c'est pas ma ligne.
Pas votre ligne.
Je pense qu'il faut maîtriser les dépenses, qu'on ne peut pas accroître les dépenses en permanence, et notamment les dépenses sociales, et que cela permet précisément de ne pas augmenter les impôts.
Alors ce débat, Maud Brigeon, qui n'est pas un débat facile, arrive en pleine campagne des européennes. La liste de Jordan Bardella écrase tout, en tous les cas dans les sondages pour le moment. Une liste qui s'étoffe de personnalités, par exemple, comme Malika Sorel en deuxième position. Je l'ai reçu là il y a quelques jours, c'était sa première interview. Essayiste, intellectuel, est-ce que ce genre de personnalité apporte quelque chose à la politique ?
Ce sera, moi je vais pas faire d'attaque ad nominem et on verra bien comment se passent les débats. Plus globalement, je pense que l'Europe, l'Union européenne, la France est aujourd'hui à une croisée des chemins. On voit bien qu'il y a deux blocs qui s'affrontent. Le bloc que nous on représente, qui effectivement pense qu'on a besoin d'une Union européenne extrêmement forte, que les grands enjeux comme l'immigration, comme l'écologie se traitent à l'échelle européenne, ou en tout cas trouvent des réponses à l'échelle européenne, et un le camp, qui est celui de Jordan Bardella et de Marine Le Pen, qui pour moi est un camp qui est synonyme de rétrécissement pour la France et pour l'Europe, et qui n'est pas souhaitable.
En tout cas,
et
c'est on aura... projet contre projet.
Mais c'est projet contre projet.
Mais alors on voit bien que vous voulez que la campagne se mène sur le fond, alors que certains l'amènent presque à dominem en dénonçant que le RN ou Marine Le Pen, c'est Daladi, etc. Vous vous dites non, il faut aller sur le fond les
propositions. Non, mais moi, je trouve qu'on a passé beaucoup trop de temps à réfléchir sur qui était dans l'arc républicain, qui n'était pas dans l'arc républicain. Je me dis que les Français, quand ils nous écoutent, ils doivent quand même parfois se poser quelques questions. Donc moi, je suis là pour expliquer pourquoi est-ce que ma conviction, c'est que l'Europe est importante pour la France. On parlait par exemple du nucléaire. Il n'y aura pas de relance du nucléaire s'il n'y a pas une industrie européenne du nucléaire, parce que c'est désormais à ces échelles-là qu'on doit réfléchir, qu'on doit créer les compétences, qu'on doit créer les supply chains. Et ça, c'est à nous de l'expliquer. On ne va pas se renvoyer des arguments politiciens en permanence. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait avancer le débat.
Projet contre projet. Donc merci Maud Brigeon.
Merci à vous.
C'était votre grand entretien ce matin. Je vous dis bonne journée, à très bientôt.
À bientôt.
Merci Maud Brigeon et Sonia Mabrouk. Dans un instant sur Europe 1, vos signatures du mercredi. Emmanuel Ducrot et Olivier Delagarde. J'avais oublié son prénom. Et bien sûr Gaspard Proust. À tout de suite.
7h, 9h.
Europe 1 matin. 8h31 sur Europe 1, Gaspard Proust dans un instant, juste après le journal permanent. Christophe Lamarre.
Pas d'augmentation des impôts pour combler les déficits. La fermeté de Maud Brigeon ce matin sur Europe 1 et CNews. Invitée de la grande interview, la députée et porte-parole du groupe Renaissance à l'Assemblée estime qu'il s'agit d'une ligne rouge infranchissable. C'est dans ce contexte que Gabriel Attal réunit ce matin l'ensemble de son gouvernement à Matignon. Séminaire consacré au travail alors que l'exécutif cherche des économies pour combler les déficits dans son viseur, les dépenses sociales et l'assurance chômage. Le jardin des Tuileries accueillera la flamme olympique pendant toute la durée des Jeux. Le lieu situé entre le Palais du Louvre et la Place de la Concorde permettra au plus grand nombre d'approcher la vasque olympique.
La météo avec Demeco. Demeco vous déménage partout où que vous soyez. Rendez-vous sur demeco.fr.
Demeco.
La météo, Anissa, a dit parapluie de rigueur ce mercredi. Hein.
Oui, on a des averses quasiment partout aujourd'hui, avec ce matin une ligne d'averses qui va de l'Alsace jusqu'aux Alpes, avec de la neige sur les Vosges, le Jura, les Alpes à basse altitude à partir de 400 mètres. D'ailleurs, la Loire, la Haute-Loire et l'Isère sont placés en vigilance orange neige. Soyez prudents sur les routes. Ça va mieux au bord de la Méditerranée après l'épisode méditerranéen d'hier. L'Hérault n'est plus en vigilance orange et le soleil est même de retour au bord de la Méditerranée. Sauf en Corse où là le temps reste encore agité. Cet après-midi, des averses pour tout le monde sauf dans le sud, avec du vent fort sur les côtes atlantiques jusqu'à 90 km/h et 60 km/h dans les terres en région parisienne ou encore en Auvergne. 8 degrés à Aurillac cet après-midi, 10 à Strasbourg et Nancy, 12 degrés à Châteauroux et Grenoble, 13 à Paris et Lyon, 15 degrés à Nîmes et Bordeaux et 17 pour Bastia et Biarritz.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Voici venu l'heure de vos signatures Europe 1, programme dans un quart d'heure. Le zapping politique de Dimitri Vernet. Emmanuel Ducrot lancera tout à l'heure l'alerte fromage, camembert roquefort. Les deux fromages sont en voie de disparition. Nous verrons pourquoi. La revue de presse d'Europe 1 également dans 5 minutes. Bonjour Olivier Delagarde.
Bonjour à tous.
À la une des journaux ce matin.
On va parler déficit public et déni français. Et puis je vais vous emmener dans la salle des fêtes de l'Élysée. Et dans les toilettes de la gare Montparnasse.
Je ne sais pas lequel est le plus attirant. Merci beaucoup Olivier. Bon, si je sais, évidemment, l'Élysée. Gaspard Proust est avec nous. Bonjour Gaspard.
Bonjour tout le monde.
Comment ça va ?
Ah, super génial l'extase, parce que n'oublions pas que dans un jour, c'est déjà le week-end.
Oh là là.
Je sens que je suis déjà sur les rotules. Mais avant de donner mon petit avis essentiel sur l'actualité, comme une sorte de mélange entre Vincent Herouet et Alexis Brézé, mais sans le cabotinage, Et avec de la vraie info, je voulais revenir sur la chronique d'hier.
Ah oui, chronique étonnante, puisque vous nous avez parlé de télévision, danse avec les stars, l'émission. C'est vrai que ça ne vous arrive pas souvent. Ça a désarçonné certains auditeurs d'Europe 1.
Ouais, ouais, et je vous avoue que j'ai eu des réactions de la part de certains internautes qui m'ont dit « Non, on regarde pas cette émission, on ne sait pas de quoi tu parles. » Et j'aimerais les rassurer. Moi non plus, je ne la regarde pas. Et moi non plus, je ne sais pas de quoi je parle.
Vous n'avez pas vraiment suivi le clash entre Natacha Saint-Pierre et Inès Reg.
Pas du tout. Moi, j'ai juste vu la nouvelle passer sur une dépêche AFP. Après, j'ai brodé dessus. Vous savez, moi, si je peux meubler le matin sans trop me fouler, je prends. Hein, parce que faut pas oublier qu'après l'accro, moi, j'ai un vrai travail. Hein. Je dois aller à la mine. Hein.
Vous allez à la mine?
Ah bah oui, je rentre chez moi, je me mets sur Minecraft. Faut être concentré pour faire des petites maisons en bois et tout.
Non mais quel escroc!
En effet. Mais bon, ça va, vu que l'ambiance est anxiogène, partir sur des sujets légers, ça fait une respiration un peu bienvenue, quoi.
Absolument, bah je comprends. Du coup, j'imagine que vous n'avez pas vu ces images de terroristes visiblement bien malmenés. Vous savez, ceux qui ont attaqué la salle de concert Crocus, image diffusée par la TV russe.
Ah ça, j'ai vu, c'est terrible. Hein. Quand tu penses que c'était que la bande-annonce.
La bande-annonce, hein.
Ah bah les gars, tu vois dans leur regard qu'ils sont parfaitement conscients qu'on n'en était qu'aux mignardises. Hein. À mon avis, ils ont dû rapidement regretter de passer de fait sauter sur place. Mais bon, de vous à moi, je pense pas du tout que les mecs qu'on a attrapés, ce soient les bons.
Qu'est-ce qui vous veut dire ça?
Parce que lors de cette arrestation, qui que j'avais sur place, moi? Mes petites oreilles.
Ah, les surmulots de l'info.
Absolument.
Mais qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Bah, comme moi, vous avez vu les images. Tu retrouves quatre gars en vrac à côté d'une vieille Renault accidentée au milieu d'une forêt de bouleaux. Vous savez à quoi ça m'a fait penser?
Non.
À la mort de Coluche. Comme dirait Renault, putain de chevreuil. Ta-da-da.
N'importe quoi. Vous croyez vraiment qu'ils ont tapé un chevreuil?
Chevreuil ou un sanglier. Après, on est sur une Renault des années 90. On peut pas non plus exclure un écureuil qui aurait fui Tchernobyl. Hein.
Mais qu'est-ce qu'il faisait, à votre avis, dans cette forêt?
Ah, je pense que c'est l'histoire de quatre mecs qui sont partis aux champignons. Ils ont fait une belle récolte, un coup de vodka en trop et boum, le chevreuil.
Non mais vous êtes sérieux? Ils avaient quand même l'air bien amochés. On dirait même qu'ils ont été violentés par des militaires russes.
Ça, c'est les champis, ça.
Les champis?
Oui, oui. On nous vend cette légende urbaine comme quoi ils auraient été frappés. Mais vous savez, l'amanite phalloïde en grande dose, ça donne des bleus au visage. Mais vous le savez pas, vous êtes un urbain. Une poêlée d'amanite phalloïde, un verre de vodka, pour peu que t'assaisonnes ça avec trois brins de salsa pareil, n'importe qui finit par ressembler à un schtroumpf. Hein. Et à un moment, notre rôle, nous autres journalistes, c'est aussi de savoir décoder les images qu'on nous donne.
Vous délirez, Gaspard.
Mais pas du tout. Regardez bien la tronche des mecs, c'est pas des terroristes. On dirait les quatre nains de Blanche-Neige qui se sont barrés parce qu'ils n'en pouvaient plus d'écouter l'autre hystéro leur parler du matin au soir du prince charmant. Mais ça se voit sur leur visage.
Bon, ils ont quand même avoué devant les caméras que c'était bien eux qui avaient fait ça, hein.
Ah bah ça c'est sûr que avec les techniques qu'applique la marée chaussée russe, on n'est pas à l'abri que les gars ils lâchent les codes nucléaires de toutes les puissances mondiales et les 7 chiffres de l'euro-million sur les 10 prochains tirages. Hein. De vous à moi, je serais pas étonné que d'ici quelques jours on les voit à la télé et qu'ils nous disent qu'en fait le conducteur de la Renault s'appelait Macron et qu'à côté il y avait Joe Biden.
Bon, dites-moi, plus près de chez nous, comme vous parlez de la police, vous n'en avez pas parlé, mais vous avez vu qu'il y a eu une attaque contre un commissariat à la Courneuve il y a quelques jours. C'est quelque chose qui vous a choqué, Gaspard?
Bah oui, j'ai pas réagi à chaud parce que je voulais prendre le temps. Vous savez, le recul nécessaire pour décrypter de manière juste l'information. Et avec un peu de recul, ça en dit long sur la détresse des assaillants.
Mais comment ça?
Bah, c'est pas un commissariat, c'est pas une banque. Il y a quoi à voler dans un commissariat? Les clés d'une Clio avec le phare gauche qui déconne et un pack de crocs. D'ailleurs, je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que les mecs qui ont fait ça, c'est pas des délinquants, mais des identitaires.
Des identitaires?
Bah vraiment. Oui, réfléchissez, leur mode opératoire du feu d'artifice, ça vous rappelle rien? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Nous, on veut un 14 juillet par semaine. C'est ça, ils ont un désir de France. Et on répétera jamais assez cette phrase d'Albert Camus. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et Dieu cerise des confitures qui déplorent le sucre ajouté dont ils chérissent les caries dentaires. Ces jeunes, faut les prendre par la main. Faut les guider vers la France ou alors vers un bon ophtalmologue. Je veux dire, où sont passés les afflelous de ma jeunesse? Parce que ces jeunes, ils ont l'appétit d'un barracuda. Aucun rapport.
Ah oui, je viens de comprendre.
On y arrive?
On y arrive, ouais. Le média Livre Noir a aussi publié l'identité et les dates de naissance des délinquants qui ont attaqué le fameux commissariat. Et alors, vous avez un peu analysé les noms de cette liste, Gaspard.
Alors, vous savez à quel point j'ai la stigmatisation en horreur. Comme dirait mon dentiste, pas d'amalgame. Mais je dois de me le dire, sur les 7 assaillants du commissariat, il y a quand même 2 capricornes. 28% des assaillants. Quand on sait que vous êtes capricorne, je me demande si demain je vais pas venir avec un flashball. On sait jamais.
Merci Gaspard.
Je vous en prie.
Je vous en prie. Bah écoutez, à demain, hein, via la veille du week-end.
Week-end Pascal.
8h38 sur Europe 1. Et oui, week-end c'est Pascal.
J'avais oublié.
Le tridium.
La revue de presse arrive dans un instant sur Europe 1. Olivier de la Garde.
Non.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Un sujet domine ce matin la presse, l'état de nos déficits publics.
La dette, Dimitri? Quelle dette?
Mais non, dormez tranquille, braves gens, tout cela n'est pas bien grave. Il ne faut pas céder à la panique. Il y a deux choix à faire pour freiner la dépense, mais il n'y a pas de nécessité de faire des coupes drastiques. On est très loin de ce qui s'est passé en Grèce. Fermez les guillemets. Interview lunaire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, d'une professeure d'économie, ancienne conseillère d'Elisabeth Borne à Matignon. Mais finalement, interview très intéressante sur ce qu'elle dit du déni français de certaines élites en matière de finances publiques. Parce que si, malheureusement, ce qui se passe est grave, et le réflexe quasi pavlovien de tous ceux qui ce matin réclament des augmentations d'impôts en dit long sur une forme de déconnexion du réel et d'absence de mémoire économique. Dans le même Parisien, Olivier Auguste rappelle dans son éditorial que déjà, Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy, puis François Hollande et enfin Emmanuel Macron s'étaient tous engagés à réduire les déficits avec les résultats que l'on sait. Rien que l'année dernière, les dépenses ont augmenté de 57 milliards d'euros. 60 000 agents publics de plus ont été embauchés, rappelle-t-il, et l'État a même inventé une nouvelle subvention pour le raccommodage des pulls troués. Alors aujourd'hui, pour tenter de raccommoder les finances publiques trouées, certains ressortent l'augmentation d'impôts, et à la une du Figaro, le son de Gaëtan de Capelle ne fait qu'un tour. En France, nous expliquons, tailler dans les dépenses où que ce soit est impossible sous peine de saccager notre modèle. Mais c'est pourtant ce qu'ont réalisé tous nos voisins européens, sans drame. Mais non, ici, il faut taxer les super-profits, créer une contribution exceptionnelle, rétablir l'impôt sur la fortune. Bref, le retour des tartes à la crème, poursuit-il, à gauche, bien sûr, mais aussi dans la majorité. Et c'est vrai que nombreux sont ceux qui ont de plus en plus de mal à suivre François Bayrou en ce moment. À la une de l'opinion, le dessinateur CAC croque le président du Modem en professeur Nimbus. On le voit en train d'expliquer, pour un ménage, le déficit c'est quand on dépense trop, pour un État, c'est quand on prélève pas assez. CQFD, François Bayrou, ancien apôtre de la règle d'or, rappelle le journal, règle selon laquelle l'État ne devait jamais présenter un budget en déficit, mais François Bayrou, qui depuis ses déceptions du remaniement, écrit-il, n'en finit pas de prendre ses distances avec le président de la République. La politique mérite bien quelques entorses à de vieilles convictions. Autre beau cas ce matin, là il ne s'agit plus d'entorse mais carrément de fracture avec rupture des ligaments croisés de conviction. Vous vous souvenez de Malika Sorel, Dimitri?
Eh oui, la nouvelle recrue de Jordan Bardella qui va figurer en numéro 2 sur sa liste aux européennes. Elle était l'invitée de Sonia Mabrouk lundi. Hein.
Et elle nous expliquait combien le choix du RN était pour elle une évidence. Eh bien le Canard enchaîné nous révèle ce matin que cette évidence est relativement récente puisque depuis des semaines, elle inonde de textos Emmanuel Macron dans le but de devenir sa ministre de l'Éducation nationale. Le Canard enchaîné publie même les SMS, ce qui tente à démontrer que le volatile a des informateurs au plus haut niveau de l'État et que Malika Sorel a quand même un culot à toute épreuve.
Autre ambiance, Olivier Delagarde, vous nous emmenez dans les toilettes de la gare Montparnasse.
Oui, c'est une histoire incroyable que raconte l'Humanité ce matin. Une dame pipi de la gare parisienne vient d'être renvoyée pour faute grave, sans indemnité. Pour quel motif? Eh bien, elle aurait ramassé une pièce de 1 euro sur le comptoir qu'elle aurait pris pour un pourboire. Heureusement, le groupe néerlandais To The Loo, qui gère les dites toilettes, est vigilant. Il a visionné et revisionné attentivement les images des caméras de surveillance. Et on est arrivé à la conclusion que 7 euros lui appartenait. Il a donc viré comme une malpropre cet employé. To The Loo, en anglais, ça veut dire aux toilettes, et c'est vrai qu'elle donne envie de tirer la chasse.
Mais on va terminer aujourd'hui dans la salle des fêtes de l'Élysée.
Heureusement pour Emmanuel Macron, il n'y avait ni caméra de surveillance, ni surtout celle de la presse. L'histoire est racontée à la une de l'Opinion. Il y a une dizaine de jours, le président a reçu les représentants du CRIF à l'occasion du 80e anniversaire de l'institution juive. Après son discours, il salue les nombreux participants présents dans la salle. Quand tout d'un coup, un rabbin s'approche, lui affirme que son père a béni Jacques Chirac en son temps et qu'il se sent le devoir d'en faire autant avec lui. Et le voici qui pose ses mains sur la tête présidentielle et entame une prière, raconte Corinne Laïc. Emmanuel Macron est très embarrassé mais n'ose pas faire grand-chose. Autour de lui, les officiers de sécurité en état de sidération répètent « pas de photos, pas de réseaux sociaux ». Heureusement, les journalistes n'étaient plus là pour assister à ce grand moment de laïcité, comme dirait Gaspard. Bon, le 6 mai prochain.
La laïcité.
Le 6 mai prochain, c'est le dîner du CRIF. Et bonne nouvelle pour Macron, a priori, c'est Attal qui va s'y coller.
Eh ouais, là, c'est dans l'Opinion, ça. Merci beaucoup. Corinne Laïc l'a bien nommé, comme vous l'avez écrit, sans le dire, mais je le dis pour vous. Merci, Olivier Delagarde. 8h46.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
De 11h à 13h, vous connaissez le rendez-vous. C'est vous qui prenez la parole sur Europe 1, chers auditeurs. Vous êtes les bienvenus avec Pascal Pro qui vous attend. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Les chiens nous comprennent quand on leur parle, selon une nouvelle étude en Hongrie. Bon, j'ai pas besoin d'avoir une
Mon chien parle. Non seulement il me comprend, mais il parle.
Qu'est-ce qu'il dit?
Moi, j'étais au pied de mon chien cette nuit.
C'est vrai.
Vous connaissez ce sketch de Raymond Devos? J'étais au pied de mon chien et je lui ai dit, mais mon chien s'est mis à parler. Mon chien, c'est quelqu'un. Vous connaissez pas ce sketch?
Mon chien, c'est quelqu'un.
Bon. Donc, vous pourrez. Toujours des sujets qui passionnent les auditeurs.
Oui. Et donc, mais quel est le sujet? Je n'ai pas bien compris.
L'analyse des ondes cérébrales de nos animaux montre qu'ils peuvent bien comprendre certains mots.
Oui.
Vous parlez à votre chien comme si c'était un être humain.
Oui.
C'est un sujet un peu léger. On pourra également parler des héritiers, des ayants droit d'Edith Piaf qui ont été contactés pour la chanson « L'hymne à l'amour » et une nouvelle orchestration.
Ça se précise.
Aya Nakamura qui pourrait chanter « L'hymne à l'amour et la vie en rose ». Donc voilà, ça c'est des sujets un peu plus légers. Puis c'est vrai que ce matin, personnellement, moi je suis triste et j'ai l'impression que personne ne se rend compte de ce qui se passe parfois. Ce proviseur qui est...
Du lycée Maurice Ravel,
qui s'en va,
Paris 20e.
Qui s'en va pour des raisons, parce qu'il est mis en danger, je trouve ça effrayant, sidérant, et je suis étonné qu'on n'en parle pas davantage. Mais forcément, comme pour certains, ça n'entre pas dans la bonne grille de lecture, eh bien, on évite de parler de ce sujet. Dans la France que j'ai connue, un proviseur ne partait pas. Il n'était pas menacé de mort parce qu'il demandait à une élève de respecter les codes de la laïcité et notamment d'enlever son voile. Mais ça, c'était avant, comme dit l'autre. Aujourd'hui, ce proviseur est obligé de quitter le lycée Maurice Ravel et ça ne semble pas émouvoir plus que ça les Français. Ça m'attriste.
Ça dépend lesquels. Je pense qu'ils voudront réagir tout à l'heure sur l'antenne d'Europe 1, Anissa Dadi, le numéro de téléphone.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, Pascal Pro et vous, 11h-13h sur Europe 1.
Voilà, et puis dans 10 minutes, l'heure des pros également sur CNews d'Europe 1.
Le top jeu Europe 1.
Le signal, vous ça l'avez entendu, qui donne le coup d'envoi pour tenter votre chance et jouer, Anissa.
Oui, à partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour jouer, tenter de gagner le téléphone de vos rêves, le Galaxy Z Flip 5, le smartphone pliable de Samsung. Alors, il suffit de vous inscrire dès maintenant au tirage au sort. Vous envoyez Galaxy au 7 39 21, 3 fois 75 centimes, plus coût du SMS. Et toute cette semaine, Europe 1 récompense votre fidélité. Après avoir envoyé Galaxy, vous pouvez doubler vos chances de gagner ce smartphone grâce au mot-clé du jour. Et le mot du jour, c'est famille. Allez, bonne chance à tous.
Merci Anissa. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Une affaire de fromage ce matin et de biodiversité également. Le camembert et le roquefort pourraient disparaître de nos plateaux de fromage. Ils sont menacés d'extinction. Et vous nous dites ce matin que c'est peut-être la science des bactéries qui pourrait les sauver.
C'est une histoire qui est passionnante, qui est rapportée par le journal du CNRS et qui intéressera tous ceux qui, comme moi, sont fascinés par les fromages. Là, c'est la recherche qui change vraiment notre regard sur le quotidien. L'article raconte comment la domestique des moisissures qui servent à la fermentation du fromage a conduit à une lente dégénérescence et comment, si on ne fait rien, on ne pourra bientôt plus se servir de ces bactéries.
C'est-à-dire que les bactéries à l'origine de ces fromages sont épuisées?
Les moisissures, en tout cas, oui. Pour fabriquer le roquefort, on utilise une espèce de champignon qui s'appelle le Penicillium roqueforti. Les humains ont appris, depuis qu'ils fabriquent des fromages bleus, à sélectionner quelques souches seulement de cette moisissure, celles qui donnent les fromages les plus attrayants, avec le meilleur goût, et puis aussi les plus sûres, c'est-à-dire celles qui ne produisent pas de substances toxiques, parce que parfois les champignons produisent des substances toxiques, et puis aussi celles qui poussent rapidement sur les fromages pour ne pas laisser la place à d'autres micro-organismes indésirables.
Oui, là, on est vraiment dans la science du fromage, là, on a en quelque sorte élevé ces champignons.
Exactement comme on le fait avec des animaux, mais on a oublié une chose, on a oublié de croiser les lignées pour apporter en quelque sorte du sang neuf. On n'a pas pris soin de la biodiversité des moisissures, et pour cause, on ignorait qu'elle existait, cette biodiversité des moisissures. Les champignons ont le plus souvent été clonés par l'industrie, par les fromagers, pour obtenir un résultat très stable. Gros inconvénient, ils finissent par être tous semblables. La pauvreté génétique s'installe, la souche dégénère, elle devient stérile. Et là, c'est notre Roquefort qui est menacé.
Le Roquefort fin de race.
Voilà, exactement.
Sorte. Incroyable. Et même chose pour le camembert.
Eh bien oui, en pire. On parle là d'une autre moisissure. Elle s'appelle Penicillium camemberti. Vous pourrez briller ce soir au dîner. Tous les fromages type camembert sont produits à partir d'une seule souche sur toute la Terre. Cette souche est un mutant blanc du Penicillium camemberti qui a été sélectionné en 1898, figurez-vous. C'est toujours la même. Et elle a remplacé petit à petit toutes les autres souches qui donnaient des camemberts verts, orange ou bleu-gris. On en avait encore dans les années 50.
Des camemberts
de couleur, oui, oui. Et ils ont disparu. Et cette souche de mutant blanc de Penicillium camemberti est en train de mourir. Les industriels ont du mal à en avoir suffisamment.
Mais est-ce qu'on peut sauver nos fromages en danger ?
Mais oui, c'est là que la science intervient. Ah. Et c'est fantastique. Les chercheurs du CNRS ont découvert, ouf, il y a peu, une nouvelle souche de Penicillium roqueforti dans un bleu alpin qui s'appelle le bleu de terre mignon. Et cette nouvelle souche de moisissure pourrait apporter un renouvellement génétique dont les souches historiques ont besoin. C'est un peu plus difficile pour le camembert. Les chercheurs se sont mis en quête de Penicillium camemberti sauvage ou de moisissures proches de cette...
Et des camemberts qui poussent dans la nature.
Bah, en tout cas, des moisissures. Pour croiser avec les sources historiques. Et c'est possible parce que maintenant, on sait séquencer le génome du moisi.
Bon, et cela va-t-il avoir des conséquences sur les fromages ?
Oui, peut-être un peu moins de standardisation, puisque les moisissures toutes fraîches vont apporter de nouvelles caractéristiques gustatives qu'on ne connaît encore pas trop. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça fait plus de microbiodiversité, puis des goûts nouveaux dans nos assiettes.
Merci beaucoup Emmanuel Ducrot pour ce petit cours de fromage accéléré. 8h53.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous.
Les Mozart de la finance sont devenus les tocards de la finance.
Après la publication hier des mauvais chiffres du déficit, 5,5% du PIB contre 4,9% prévu par le gouvernement, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron ont été chargés de toutes parts. Nicolas Dupont-Aignan était sur Europe 1 et CNews.
C'est surréaliste. On a un ministre de l'économie qui, depuis 2017, passe plus de temps à écrire des livres qu'à gérer les finances de la France.
Le sénateur LR Bruno Retailleau, lui, était sur LCI.
C'est un des pires dérapages qu'on ait eu depuis le début de la Ve République. On est désormais le cancre de l'Europe.
Ou encore le député RN Philippe Lothiot à l'Assemblée.
Tout cela, c'est votre action, dont vous continuez entre deux livres à vous glorifier, déclarant récemment que votre politique économique a donné, je cite, « de très bons résultats ». En fait, Bruno Le Maire ne se trompe pas, ce sont les chiffres qui n'ont pas compris ce que Bruno Le Maire attendait d'eux.
Bon, la défense est désormais appelée à la barre. Bruno Le Maire était sur RTL.
C'est l'ADN de notre majorité d'avoir des comptes publics bien tenus.
Top défense, Sam. Ah, franchement, Nono, t'abuses, je suis obligé de repasser le générique.
Je suis Nono, le petit robot.
Le gros mytho.
C'est l'ADN de notre majorité d'avoir des comptes publics bien tenus.
Et ce n'est pas fini.
Et je reste, c'est ma conviction, totalement opposée à toute augmentation d'impôts sur nos compatriotes.
Mais oui, bien sûr, Nono, bien sûr.
Je suis Nono, le petit robot.
Le gros mytho.
C'est surréaliste, des escrocs en col blanc.
Changement d'ambiance. Vous vous rappelez, hier, on parlait de l'écolo, pas vraiment écolo, Marine Tondelier. Eh bien, la députée a fait un aveu hier sur France Info.
Ça vous arrive de fumer du cannabis ? Je fume pas du tout, voilà. Si ça vous va comme réponse, ce sera la mienne.
Ah d'accord, bon. Vous doutez encore de sa réponse ? Écoutez la suite.
J'aimerais pas, par ailleurs, que Gérald Darmanin m'attende à la sortie tout à l'heure avec un fourgon de CRS.
Tout s'explique, oui. Je comprends maintenant pourquoi elle va tous les ans en Guyane voir un arbre pousser.
Cela ne nous regarde pas.
Enfin, vous le savez, nous sommes le 27 mars. Mais pourtant, dans l'émission quotidien...
C'est la belle nuit de Noël. La neige est...
Mais oui, même en mars, c'est Noël. Manon Aubry l'a expliqué sur leur plateau hier.
Les coulisses de quotidien, quand on arrive ici, il y a des petits cadeaux qui nous attendent dans l'oeil.
Mais c'est pas oui, c'est pas un lobby, c'est juste des... Je peux vous dire que les autres insoumis sont partis avec.
Mais en tout cas, moi, je partirai pas avec.
Petit papa Noël.
Oui, Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ? Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Décidément, le Père Noël est... Vraiment une ordure.
C'était quoi ce petit cadeau ? J'ai pas bien...
Oh bah écoutez, c'était une serpillière apparemment.
Petite serpillière. Merci beaucoup.
Il y avait des trous pour les bras.
Dimitri Vernet. Oui. Allez, bonne journée. Culture Média. C'est des bougies parfumées. 9h30, Culture Média sur Europe 1. L'heure des pros arrive tout de suite. Bonne journée.